Bonsoir à toutes et à tous. Il est 19h passé. Non, 19h pile. Je vais proposer à Nathalie Garcia d'être secrétaire de séance et de faire l'appel.
Bonsoir, merci Monsieur le maire. Monsieur Charles Daillot, Monsieur Hervé Bayard, Madame Marie-Christine Bourdieu. Monsieur Farid Eba, Madame Eliane d'Arteron, Madame Catherine Piquet, absente, donne pouvoir à Charles Daillot, Monsieur Gilles Chauvin, Madame Geneviève Dariussec, absente, donne pouvoir à Mathieu Hara, Monsieur Jean-Marie Badby, Madame Chantal Plancheneau, Madame Jeannine Lamaison, Monsieur Bruno Ruffia, Madame Pascal Horry, Monsieur Philippe Hérault,
présent.
Madame Marina Moncon, absente, donne pouvoir à Hervé Bayard. Madame Marie-Christine Arambat, absente, donne pouvoir à Nathalie Gas. Monsieur Pierre Merlet-Bonan, Monsieur Jean-Jacques Gourdon, Madame Nathalie Gas, Madame Marie-Pierre Gazot, Monsieur Hicham Lamsika, Madame Claudie Breck, absente, donne pouvoir à Philippe de Marnix, Monsieur Philippe de Marnix, Monsieur Christophe Ourcade, Monsieur Mathieu Hara, Monsieur Mathis Capdeville, Madame Delphine Leblanc, absente, donne pouvoir à Nathalie Garcia. Donc Madame Nathalie Garcia présente. Monsieur Jean-Baptiste Savary, absent, donne pouvoir à Frédéric Dutin. Madame Céline Pio, Monsieur Alain Bachet, Madame Françoise Cavagnier, Monsieur Frédéric Dutin, Madame Françoise Latrabe et Monsieur Benoît Piarine.
Merci Nathalie. Avant de démarrer, chers collègues, avant de démarrer ce conseil et de regarder le PV, j'aurais voulu vous dire un mot, tout simplement, parce qu'aujourd'hui est un jour de tristesse pour Mont-de-Marsan, mais pas que, puisque du haut de sa grande taille, Benoît Degas est décédé. Benoît Degas nous a quittés aujourd'hui, 80 ans. Benoît Degas est né le 8 mai 1942 à Montgaillard. C'est un joueur de rugby avec 63 sélections, plusieurs fois capitaine de l'équipe de France. Il a marqué 11 essais. Il a été désigné capitaine à 9 reprises. Il a fait partie des acteurs de la victoire française lors de 3 tournois des 5 nations et notamment le Grand Chelem, le premier Grand Chelem en 1968. Il a participé en Afrique du Sud à des tournées en Afrique du Sud en 64, en 67, en 71, en Australie en 1968, en Nouvelle-Zélande aussi en 68. Benoît Degas a joué au Stade Montois. Il est arrivé en septembre 73 et il a joué au Stade Montois jusqu'à sa blessure contre Dijon le 12 janvier 75. En 1971, il a été sacré meilleur avant au monde. Je vous l'ai dit, il fait partie de la première équipe de France qui a gagné le Grand Chelem. Avec le Stade Montois, il a joué aux côtés des Boniface, des Darouille. Il aurait pu jouer la finale de 66, il était blessé. Voilà, c'est quelqu'un qui compte bien évidemment pour le rugby français, pour toute une région et pour notre territoire. Il était surnommé le Grand Ferré, par référence à un héros du Moyen-Âge, grand pourfendeur d'anglais. Entre 2003 et 2006, il a été président du Stade Montois, rugby. Denis Lalanne lui a consacré le livre Degas. En 2012, il a été décoré chevalier de la Légion d'honneur. Donc nous perdons bien sûr un grand rugbyman, mais aussi un grand landais, un grand montois. Donc je vous propose de nous lever et puis d'observer une minute de silence. Je vous remercie. Très vraisemblablement, un portrait de Benoît et un endroit pour permettre aux Montois de venir signer un cahier de recueil de témoignages de condoléances sera installé en mairie très, très prochainement. Sans transition aucune, donc je vous propose de passer sur l'ordre du jour du conseil municipal. Nous avons d'abord à prendre connaissance et à valider ensemble le procès-verbal de la séance du 22 septembre 2022 et également de prendre connaissance des décisions que j'ai été amené à prendre. Et puis ensuite, nous avons un certain nombre de délibérations, une vingtaine, que nous déroulerons avec des échanges. Alors sur le procès-verbal qui est joint, y a-t-il des remarques, des choses qu'il faut modifier ou des points sur lesquels vous voulez intervenir ? Sans quoi, je vous propose de l'adopter. Y a-t-il des voix contre ? Pas d'abstention. Donc le PV est adopté. J'ai été amené à prendre un certain nombre de décisions pendant la période qui va du 14 septembre au 17-10. Y a-t-il des points sur lesquels vous voulez avoir quelques compléments d'information concernant ces décisions ? S'il n'y a pas de remarques particulières, on acte le fait que tout le monde a pris connaissance des décisions et du compte-rendu des décisions prises. On va rentrer dans le conseil municipal, plusieurs délibérations. Là, on va parler de culture et de tradition, mais on parlera ensuite aussi, on reviendra après par la suite sur la partie fête et animation et régie des fêtes. Mais dans un premier temps, je voulais vous proposer de partager une motion en faveur des libertés et de la diversité des expressions culturelles. Je vais essayer de... Bon, je vais vous la lire, même si vous en avez pris connaissance, et en reprendre un petit peu le contenu et vous détailler un peu tout ça. Donc, la ville de Mont-de-Marsan a adhéré à la charte Esprit du Sud en faveur des libertés et de la diversité des expressions culturelles. Conformément à cette charte, selon laquelle... on est menacé de disparition de nombreuses cultures minoritaires. Il est indispensable de rappeler, comme les États membres y sont engagés par leur convention, par la signature de la convention de l'UNESCO en 2003 et 2005, il est indispensable de pouvoir continuer à défendre et à protéger et à promouvoir la diversité des différents patrimoines culturels immatériels et la diversité des expressions culturelles. Tant qu'elles ne portent pas atteinte aux droits de l'homme, elles doivent être respectées et pouvoir se transmettre en toute liberté. Plusieurs formes, c'est aussi d'ailleurs les composantes de la charte Esprit du Sud 40, la chasse, la pêche, la tauromachie, les tauromachies, les arts et pratiques de l'agriculture, l'élevage, la gastronomie ainsi que des manifestations folkloriques, sportives, culturelles, la valorisation des langues et la transmission des langues régionales, participent à cet Esprit du Sud qui repose sur un patrimoine ancestral, amplement partagé dans nos régions et qu'il appartient de préserver. La tauromachie est une culture ancestrale, enracinée dans les régions du Sud, depuis 1289 à Bayonne, et nous depuis également des siècles. Elle est inscrite au patrimoine immatériel français depuis 2011, et interdire la corrida équivaudrait à abolir la liberté culturelle de ce territoire et d'autres, des territoires du Sud, et à nous priver de cette identité. L'interdiction des corridas équivaudrait à interdire la profession de torero, inscrite au répertoire des métiers depuis 1936 par le Front populaire et bénéficiant d'un statut d'artiste intermittent depuis 1977, ainsi que celle d'éleveur, dont le rôle est primordial dans la conservation d'écosystèmes fragiles et impropres à toute autre forme d'exploitation. Il n'y a pas la corrida, il n'y a pas ce type d'élevage, il n'y a pas d'exploitation alternative. L'interdiction porterait un coup fatal au commerce des 56 villes et à son économie, les villes taurines, qui composent l'UVTF notamment, et qui bénéficie de l'importante économie induite par les corridas. La corrida, et on en parlera certainement au gré des différentes délibérations, est un spectacle vivant et peut-être le seul à ne pas bénéficier de subventions publiques, en tout cas à Mont-de-Marsan. Le député Caron est la voix de l'antispécisme à l'Assemblée nationale. Interdire la corrida n'est pour lui qu'un premier pas, une sorte de cheval de Troie qui lui permettra de démanteler ensuite toute forme d'exploitation des différentes espèces par l'homme. Je rappelle qu'il a prôné dans son programme, dans son micro-parti Révolution écologique pour le vivant, la disparition de toutes ces composantes, interdire la chasse, la pêche, l'équitation, le foie gras, l'élevage, les animaux de compagnie en ville, pourquoi pas l'alimentation de carnet, les abattages rituels, la fin du nucléaire, au-delà d'un certain nombre de composantes dans son programme. Selon le député Caron et divers sociologues, la corrida est moribonde. Alors, quel intérêt les députés auraient-ils donc à interdire au risque de soulever la colère des populations discriminées ? Alors qu'il suffit d'attendre sa disparition, d'après ce que dit M. Caron et ses proches. Une interdiction politique serait contraire à la hiérarchie des normes. Est-ce que c'est le moment de rajouter de l'huile sur le feu et de jeter les populations et les territoires les uns contre les autres ? La France est le pays des libertés et ne peut pas devenir celui des interdictions en cédant aux injonctions d'une police des mœurs cynique dont la volonté de déconstruction des institutions et de morcellement de la société n'est plus à démontrer. Quel intérêt les députés attachés à l'état de droit auraient-ils à dérouler le tapis rouge devant ce député et la France insoumise ? Puisque je rappelle que ce projet est porté par l'ensemble des députés de LFI et de Europe Écologie Les Verts. La France a inclus dans son bloc de constitutionnalité la préservation du pluralisme des courants d'expression socioculturels. Interdire la corrida serait inconstitutionnel. La France s'est engagée à garantir la liberté et la diversité des expressions culturelles en ratifiant la Convention de l'UNESCO en 2005. À ce titre, une loi d'interdiction serait en contradiction avec le bloc de conventionnalité. Et le Parlement européen a précisé le 5 mai 2010 que l'article 13 du traité de Rome sur le fonctionnement de l'Union européenne prévoit que les États membres doivent tenir pleinement compte des exigences du bien-être des animaux en tant qu'êtres sensibles, mais tout en respectant les dispositions législatives ou administratives et les usages des États membres en matière notamment de rites religieux, de traditions culturelles et de patrimoines régionaux. Interdire la corrida conviendrait donc aussi au droit européen ainsi que le CE l'a rappelé dans une décision récente en matière d'abattage rituel. Voilà. Cette motion, c'est l'occasion pour nous de défendre notre identité culturelle. Cette identité culturelle, elle doit transgresser les étiquettes politiques. On sait très bien que même si ce projet de loi est porté majoritairement par deux partis, LFI et Europe Écologie Les Verts, au Parlement, il y a bien évidemment sur un sujet éthique des avis partagés. On a le droit de ne pas aimer la corrida, ici aussi. Hein. Simplement, ce qu'on demande, c'est de ne pas interdire de pouvoir s'adonner à cette passion. Les députés, à notre sens, n'ont pas été élus pour démanteler notre patrimoine culturel. Je souligne que bon nombre de nos grands élus, ici, autour de nous, soit les députés de ce département, le président du département, bon nombre de maires ici, Madame la ministre Darrieussecq, président Fortinon, je l'ai dit, et puis dans d'autres régions, Carole Delga, Renaud Muselier, ont eu le courage et l'expression de ne pas soutenir, bien évidemment, ce projet de loi. Il s'agit de prendre une position officielle de la commune au sujet d'un intérêt qui est général et local, et nous devons prendre position, comme l'ont fait d'ailleurs de très nombreuses villes, Arles, Nîmes, Orthez, Garlin, Arzac, demain Béziers, hier la région PACA, le Parlement de Navarre, le département du Gers. On a le droit de ne pas aimer la corrida, mais voilà, l'idée c'est de pouvoir laisser, bien évidemment, les personnes pouvoir aller et s'adonner à leur passion. L'UVTF, est, au travers de ses actions et de l'argent qui est récupéré, d'ailleurs on en parlera sur les billets de corrida et sur les spectacles, depuis plusieurs mois, n'a pas attendu cette actualité. Je rappelle que le projet de loi Caron sera examiné le 24 novembre pour écrire à tous les grands élus, que ce soit les élus départementaux, régionaux, les députés, les sénateurs, les ministres. Encore aujourd'hui, André Viard, qui est le salarié de l'UVTF, était encore à l'Assemblée nationale ou au Sénat pour intervenir auprès des groupes politiques et expliquer quel est l'enjeu pour nous de ce projet de loi. Mais il nous semble aujourd'hui très très important que nous puissions même, si, et c'est tout à fait possible, à cette table et dans cette ville, il y a des gens qui n'aiment pas la corrida particulièrement. Il nous semble important de pouvoir voter ensemble cette motion, pour pouvoir expliquer qu'au-delà de la corrida, c'est les particularités, les diversités culturelles de territoire qui sont attaquées. Aujourd'hui, c'est la corrida, demain, ce sera la chasse, la pêche, etc. Voilà ce que je souhaite soumettre au vote, et je suis ouvert, bien évidemment, à vos remarques.
Merci, Monsieur le maire. Alors, bien entendu, notre groupe, le Nouvel Élan Populaire, va voter pour cette motion, donc la délibération en faveur des libertés et de la diversité des expressions culturelles. Jean Jaurès était favorable, justement, aux cultures locales et à la diversité culturelle. Alors, nous sommes autant que vous attachés aux cultures locales et à leur respect, défense et promotion. Certainement que mes collègues parleront aussi, mais dans le texte de la délibération, je voudrais tout de même faire deux remarques par rapport à deux mots ou expressions qui nous posent problème. Alors, c'est le mot « folkloriste » et l'expression « langue régionale ». Alors, peut-être qu'il y aura d'autres points qui seront soulevés, mais en tout cas, je voulais vous orienter sur ces deux mots-là. Alors, pourquoi « folkloriste » ne nous convient pas ? Il faudrait peut-être l'enlever de la motion. Le mot « folkloriste », le mot « folklore » fige dans le passé. C'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est une photo à un instant T qui ne bouge plus. Si la tradition n'est pas réinventée, elle se fige dans le folklore. Donc ça nous renvoie au passé, mais de façon, on va dire, conservatoire. Voilà. Notre objectif, c'est de faire en sorte que les cultures locales soient vivantes et de les rendre encore plus vivantes, qu'on s'en empare. Donc la tradition n'est pas ce qui a toujours été, mais ce qu'on en fait, ce que le présent en fait. Donc ce mot, si on pouvait l'enlever de la motion, ça serait bien, quoi, en fait. On peut mettre le mot tradition, parce que le mot tradition, en fait, montre qu'on continue toujours à développer des traditions et à les moderniser. On peut faire, par exemple, de la cornemuse landaise avec une cornemuse électrique. C'est la modernité de la tradition. Folklore, ça reste vraiment figé, ça n'évolue pas. Donc c'est dommage qu'il y ait ce mot. Et enfin, langue régionale. Alors certes, il s'agit bien sûr d'une appellation très utilisée, assez courante, et on sait à peu près à quoi ça renvoie. Mais nombre de linguistes rejettent cette dénomination au profit de langue de France. Alors j'y reviendrai tout à l'heure. Nous, ici, là, dans les Landes, c'est l'occitan, l'occitan gascon, mais l'occitan. Et donc, le mot langue régionale ne convient pas parce que l'Occitan, l'espace occitan s'étend sur 32 départements français, plus le Val d'Aran en Espagne, plus le nord de l'Italie. Donc, au mieux, ça serait une langue extra-régionale. Mais au-delà, alors en plus, au-delà de l'espace occitan, le mot langue régionale met une hiérarchie entre les langues. Ça voudrait dire qu'il y a le français qui est la langue, certes, de la nation, mais ça serait la grande langue, et puis les autres langues, elles sont régionales. Donc il y a cette hiérarchie. Alors des linguistes ont inventé une autre dénomination, langue de France, depuis 1999. C'est d'ailleurs dans un rapport qui avait été remis au ministère de l'Éducation nationale et de la culture. Par décret en 2001, la délégation générale à la langue de France, c'est l'organisme chargé de la politique linguistique, est devenue la délégation générale à la langue de France et aux langues de France, au pluriel, et la dénomination langue de France, au pluriel, s'est imposée comme référent avec l'ouverture en 2018 de l'agrégation des langues de France. Alors, vous allez me dire, tout à l'heure, j'ai dit que l'occitan, il était aussi dans le nord de l'Espagne et le nord de l'Italie, donc finalement, langue de France ne va pas très bien non plus, mais c'est un peu mieux que langue régionale, et en fait, il y a encore plus simple, pourquoi on ne dirait pas langue tout court ? Pourquoi réduire en disant langue régionale ? Mais si vraiment on veut vraiment faire un focus sur notre occitan gascon, ben, ça serait mieux peut-être de mettre langue de France que langue régionale. Voilà. Alors vous allez me dire, ça paraît être du détail par rapport à la motion et au sens de la motion, mais tout de même, les mots sont importants et il me semble que ça serait pas mal si elle était améliorée en ce sens. Je vous remercie.
J'entends, je vous répondrai, je vais laisser peut-être les personnes qui souhaitent s'exprimer sur cette motion. Mathieu Arras, Allez-y.
Oui. Excusez-moi. Oui, merci, monsieur le maire. Comme d'habitude, et même si je suis le seul à penser ça, je ne participerai pas au vote de cette motion, puisque je considère qu'on pourrait voter beaucoup de motions sur beaucoup de sujets, tous aussi légitimes qu'ils soient. Prendre position sur des sujets qui impactent la vie des Montois, on pourrait le faire à tous les conseils municipaux, et je pense que ce n'est pas le rôle d'une collectivité que de voter sur quelque chose dont on n'a pas directement la compétence. Une fois que je dis ça, vous savez l'attachement qui est le nôtre à tous et qui est le mien à la tauromachie. Ça me permet juste de faire un clin d'œil à M. Benoît Doga, qui a été pendant quelques années le président du jury du prix de la meilleure passe du Plumasson. Je tenais à saluer son engagement toujours pour amener des grands rugbymen et autres célébrités dans nos arènes pour défendre la culture. Il l'a fait très bien pendant les quelques années où j'ai eu l'honneur de le connaître. Et donc, voilà, je voulais lui faire ce petit clin d'œil ce soir. Merci.
Merci. Monsieur Pierrine.
Nous ne participerons pas non plus au vote. Marsan Citoyen pense que ces pratiques culturelles peuvent continuer à vivre tranquillement. Ou que si on veut que ces pratiques continuent à vivre tranquillement, la responsabilité d'une collectivité est de ne pas être aussi brutale, aussi clivant. La motion pour... en faveur de la corrida aurait dû être une formalité, mais là on diabolise un individu, on fait des amalgames, chasse, agriculture, on répand des mensonges, alors peut-être que c'est que des erreurs, mais la tauromachie ne fait plus partie du patrimoine immatériel de la France depuis 2015 par exemple, mais c'est vrai que le chargé de mission de l'UVTF colporte ça à longueur de conférence. Donc on ne rentrera pas plus de façon plus véhémente dans ce débat, mais nous ne participerons pas à ce vote.
Qui veut s'exprimer, Monsieur Dutin et Monsieur Bachy ensuite.
Ah. Oui, nous participerons. Enfin, Céline Piau l'a déjà indiqué, et nous participerons sans arrière-pensée. D'abord, cette motion. Elle m'intéresse parce que elle fait référence aux libertés et à la diversité. Évidemment que le sujet principal, c'est celui de la tauromachie. On peut y inclure d'ailleurs toutes les tauromachies, hein, qu'elles soient espagnoles, portugaises, landaises, etc. Mais dans la mesure où il s'agit, à travers cela, de permettre la diversité et de permettre la liberté, alors, évidemment, que notre groupe ne peut que s'associer à ce type de motion. Parce que c'est justement de la diversité que notre pays a tiré toujours sa force. Aujourd'hui, on veut nous imposer localement une remise en cause de nos cultures. Aujourd'hui, on veut remettre en cause ce qui a fait la façon dont les uns et les autres nous sommes construits. Plutôt que d'essayer de cliver, eh bien, je crois qu'il vaudrait mieux essayer de tirer les avantages, d'essayer de se comprendre, d'essayer de se rapprocher et d'éviter, parce que j'ai entendu effectivement, M. Pierrine, ce que vous indiquiez, mais vous savez, les arguments juridiques, on peut se les jeter à la figure extrêmement facilement, et les références que vous faisiez, je peux vous en trouver à rebours et à l'inverse. Donc, ce n'est pas ça qui est véritablement intéressant. Par contre, effectivement, ce qu'il faut privilégier, c'est justement cette autonomie que peuvent avoir certaines régions, certaines cultures, et c'est ça qu'il faut privilégier et sauvegarder. Et donc, la décision, cette motion dont vous avez repris effectivement les termes, sur laquelle, c'est peut-être le seul bémol, sur laquelle peut-être qu'un travail avec l'opposition. Moi, je suis tout à fait favorable à procéder à des rédactions sur ce type de motion commune ou qui intègre effectivement les représentants des groupes. Mais donc, cette motion, effectivement, elle nous convient parfaitement. Il n'est pas du tout question, vraiment, moi, c'est pas du tout comme ça que je vois les choses, il n'est pas du tout question sur ce type justement de sujet, de faire des références, et vous l'avez fait, et vous ne l'avez pas fait, monsieur le maire, de faire référence à des couleurs politiques. Ça va, ça transcende tout cela. Que Aymeric Caron soit LFI, je serais tenté de dire, peu me chaud, et il serait socialiste, je le regretterais. Mais j'aurais effectivement la même position de dire que tout cela relève non pas de courant politique, mais relève de sa propre capacité à être un homme qui réfléchit et qui pense. Et dès lors qu'il s'agit de questions qui touchent à la culture, d'ailleurs qui pour l'instant touchent à la culture, mais qui peuvent dériver sur des atteintes culturelles, hein, parce qu'on voit très bien où est-ce que tout cela peut effectivement venir, eh bien, je pense que c'est au-delà des couleurs, des références et donc des stigmatisations politiques sur lesquelles il faut s'avancer. Et je suis sûr et certain que nos députés sauront faire la part des choses et éviteront peut-être dans certains courants de voter de manière godillotte, ce qui n'est jamais une bonne façon de voter lorsqu'il s'agit d'évoquer ce type de sujet. Voilà l'intervention très calme que je voulais faire pour vous dire que cette motion, nous la voterions.
Bien, je ne vais pas redire ce que nous a dit Frédéric Duterte, mais simplement, moi, me féliciter que nous puissions, sur un sujet, nous, élus, de base, exprimer une opinion pour que nous soyons entendus, y compris là où les choses se décident. Et comme l'a dit Frédéric Duterte, il faut que nous mesurions ce que représente cette entrée au travers d'une interdiction de la corrida. Parce que ce n'est qu'une entrée, ce n'est qu'un hors-d'œuvre. Vous l'avez dit dans votre propos, monsieur le maire, ce personnage qui porte, à titre personnel, même s'il est élu sur une sensibilité politique laquelle nous sommes la gauche, voilà, on y est, mais ils le portent à titre personnel, on sait où ils veulent nous conduire. Et c'est une véritable attaque contre nos libertés, arts pour défendre nos arts. Parce que moi, c'est de l'art, la corrida. Et voilà, et ce que nous a dit Céline Piau tout à l'heure sur... je trouve que ça enrichit et ça donne de la force à la motion. Moi, je pense qu'il faut que vous nous répondiez sur la proposition qu'on vous fait. Et donc, il y a besoin, effectivement, que nous nous exprimions sur cette question. Vous l'avez dit, il y a des responsables politiques qui se sont exprimés dans notre département. C'est bien. J'ai eu l'occasion de dire, dans une assemblée, il y a quelques jours, ces mêmes choses. C'est peut-être un peu plus compliqué d'y porter une motion pour tout un tas de raisons. Mais il faut qu'on mesure concrètement. Si nous laissons faire, c'est petit à petit d'autres choses qui vont tomber en termes de liberté de choix. Parce que personne n'est obligé d'aller voir la corrida, personne n'est obligé de chasser si on n'aime pas la chasse, personne, etc., etc. Donc voilà, il faut qu'on mesure bien. Et je trouve que la proposition que vous faites, comme l'a dit Frédéric Duterte, sur ces choses-là, on peut les partager, on peut les rédiger. Les rédiger, les porter ensemble. C'est ce qui se fait dans d'autres institutions. Voilà. Il y a des consultations avant, des propositions de motion, on la signe qui veut et la porte qui veut. Donc moi, je pense qu'il faut que ce soit une expression forte de notre conseil municipal. Et je le dis pour celles et ceux qui ne veulent pas s'y associer pour telle et telle raison. Les élus que nous sommes, de proximité, le petit conseiller municipal que je suis, moi je me ravis que nous puissions adopter une proposition, qu'on puisse se retrouver pour que les élus qui vont avoir à décider ça, imaginons qu'il y ait une majorité, qui le sait aujourd'hui, en sachant très bien que cette chose-là va se discuter à l'Assemblée nationale, je ne suis pas sûr qu'il y ait peut-être 10% de nos députés qui aient déjà vu une corrida. Donc voilà, sauf à avoir des raccourcis. Voilà, il faut qu'on mesure. Et moi, je me félicite qu'on puisse s'exprimer sur cette question.
Très bien. Je ne sais pas s'il y a d'autres prises de parole. Sauf avis contraire de l'Assemblée, je propose bien évidemment d'intégrer je partage d'ailleurs la notion un peu passéiste du mot folklorique, même si des associations y sont attachées. Donc il n'y a pas de sujet. Moi, je pense que vous avez raison sur le fait que l'on peut enlever, édulcorer un petit peu ce terme-là. Et en effet, et c'est pas moi qui vais vous donner des leçons, Madame Piau, sur les langues que j'appelais jusqu'alors régionales et que j'appellerai demain langue de France. Donc moi, il n'y a absolument aucun problème pour qu'on puisse modifier ce passage-là. Ça correspond, en tout cas pour la partie... c'est d'ailleurs pour ça qu'on parle beaucoup plus de culture que de tradition, ou voilà, pour essayer d'être dans la transmission également. Je vais donc terminer en vous disant que vraisemblablement le 19 novembre, sauf aléa, il y aura certainement quelque chose qui pourra être organisé. Nombreuses sont les villes de l'UVTF qui organiseront vraisemblablement le 19 novembre, c'est un samedi, quelque chose pour justement mettre un dernier coup de collier avant l'examen de cette proposition de loi le 24 novembre. Donc vous aurez l'occasion peut-être d'être, j'espère, y compris M. Pierrine, vous serez à nos côtés ce jour-là, même si j'ai entendu vos raisons. Sur cette motion, y a-t-il des voix contre ? Alors, M. Pierrine ne prend pas part au vote, c'est ça, hein ? Et M. Marat. Donc, Mathieu Marat et Benoît Pierrine ne prennent pas part au vote. Donc, sur ceux qui prennent part au vote, y a-t-il des voix contre ? Y a-t-il des abstentions ? Je vous remercie. La délibération suivante. C'est la mise en place des modalités financières du plan de défense de la promotion de la culture taurine pour les années 2022-2023. C'est le renouvellement de ce que nous faisons avec l'UVTF et l'Observatoire national des cultures taurines, l'ONCT. C'est un plan triennal de défense et de promotion de la culture taurine afin de pérenniser et de préserver cette culture dans les villes de tradition taurine. Dans le cadre de la mise en œuvre de ce plan, un projet de convention de partenariat doit être annexé, j'imagine. Voilà. Et qui précise les modalités de cotisation. Rien n'a changé. On avait eu une interruption pendant les périodes Covid, forcément. Mais globalement, on reprend le même rythme de versement. Et donc, la ville de Mont-de-Marsan versera à l'UVTF, en fonction du nombre de spectacles organisés durant la manifestation, les donations culturelles suivantes. 1% des contrats des taureaux et novilleros. 1% hors taxe de la facture d'achat des taureaux et éleveurs, 1% de la facture des divers prestataires de services. La ville, ça c'est la partie fixe, et puis il y a une partie variable qui est de 50 centimes d'euros par billet vendu. La convention qu'on vous propose de ratifier là, elle est valable pour les spectacles qui sont organisés en 2022-2023. Vous donner quelques informations complémentaires, vous dire que ce règlement et ces critères-là ont été votés à l'unanimité des 56 villes taurines. Alors quand je dis 56, non, parce qu'à la dernière AG, il y en a certaines qui n'étaient pas présentes, mais il y avait 41 villes présentes. Et donc les 41 villes ont voté à l'unanimité à l'Assemblée générale de Toulouse en mai 2022. Vous dire également que cet argent récolté sert à financer un certain nombre de choses. Quel est le rôle de l'UVTF ? Le rôle de l'UVTF, c'est déjà de travailler, d'établir un règlement taurin. C'est de défendre juridique, d'un point de vue juridique ou judiciaire toutes les opérations, toutes les personnes qui pourraient être attaquées par la pratique et par leur pratique de la tauromachie. On a eu des cas notamment à Bayonne ou à Dax récemment, avec des attaques de la SPA par exemple. C'est de faire aussi des opérations d'information, d'éducation, de lobbying. C'est parfois de faire de l'événementiel. C'est d'assister aussi les villes taurines pour pouvoir les aider, fiabiliser les différentes organisations qui peuvent avoir, amener du conseil, voire même de la logistique sur différents points de règlement. Je pense récemment à tout ce qui est cahier des charges en termes d'infirmerie et autres. C'est de pouvoir, voilà. Donc voilà globalement les différents rôles de l'UVTF. L'UVTF fonctionne avec un chargé de mission qui est André Viard et une secrétaire qui est Mme Boé. Le siège est à Arles, il me semble. Le président est M. Bernardini, j'en suis le vice-président. Pour vous donner quelques repères, en 2015, 2016, 2017, c'est à peu près 30 000 euros, 33 000 euros de cotisation, ce que représentent les fonds versés par Mont-de-Marsan. Bien sûr, c'est à l'échelle de l'ensemble des villes taurines, en fonction bien évidemment de leur taquilla et de leurs moyens et de leur nombre de spectacles. Ça a eu une interruption forcément en 2020 et en 2022. Et là, aujourd'hui, c'est la reprise de ce rythme. Il nous paraît, et pour les villes taurines et les maires des villes taurines, il paraît absolument essentiel que nous puissions maintenir ça, parce que nous avons en face de nous des détracteurs qui savent de manière remarquable mobiliser des moyens et beaucoup de moyens financiers. Donc il faut pouvoir être à la hauteur. Donc voilà la délibération que je vous propose et la convention que je vous propose de ratifier. Avez-vous des remarques ?
Ah, décidément. Oui, Monsieur le Président, je vais peut-être détonner un peu ce soir, mais tant pis. Monsieur Bachet, moi j'ai participé à beaucoup de manifestations contre les corridas, j'étais à peu près à toutes, j'en ai même eu l'idée, je ne sais pas si elle était heureuse d'une, dans les arènes de Mont-de-Marsan, où monsieur le maire, vous y étiez aussi, non mais tout à fait, je pense globalement que l'émotion, enfin vous savez ma position sur l'émotion, je ne vais pas vous la faire à chaque fois. Sur cette convention UVTF, moi je fais plusieurs constats, et c'est que j'ai l'impression que nous, et j'ai essayé moi-même dans les couloirs de l'Assemblée nationale de plaider la cause de la tauromachie. Franchement, c'est très compliqué sur tous les bancs, comme vous l'avez dit, Monsieur Dutin. Demain, je ne sais pas quel sera le vote. Je suis assez pessimiste, je dois vous le dire. Nos arguments ne prennent pas. On n'arrive pas à convaincre avec ces arguments-là de tradition, de liberté, d'art. Ça, je l'ai vu, j'ai essayé plein de fois, ça ne marche pas. Je trouve que pour avoir été, Madame Darussec, je crois, était présidente de l'UVTF quand on a mis en place ce plan, c'était une très bonne idée. Je suis plus circonspect sur la manière dont on le fait et je ne suis pas certain que les arguments et le ton qu'on utilise soient bons. Ça s'est apaisé, mais il y a encore parfois de l'invective. C'est pas bien et c'est pas comme ça qu'on y arrive. On est des défenseurs de la liberté, de la biodiversité, de la vie. Et il faut, je crois qu'il faut revoir la manière dont on porte nos arguments, parce que force est de constater que quand on entre, on est tous d'accord, on est très nombreux à manifester, mais quand on arrive dans l'hémicycle, ça ne passe pas. On n'y arrive pas et on perd des voix petit à petit. Au dernier quinquennat, il était question de l'interdire aux mineurs. Et déjà, alors on a fait en sorte que ce ne soit pas mis à l'ordre du jour, mais déjà c'était compliqué. Aujourd'hui, on parle même d'abolition, ce qui était un tabou il y a encore 5 ans. Même les antispécistes n'espéraient pas ça. Aujourd'hui, on y est et je me dis, alors c'est pas moi, du haut de ma toute petite expérience qui vais donner des leçons, mais je m'interroge vraiment sur la manière dont on fait cela via le plan. Et moi, à titre personnel, je m'abstiendrai.
On nous demande de voter la signature d'une convention. Moi, je pense qu'en annexe, le minimum aurait été qu'on ait quand même un rapport d'activité de l'UVTF, un rapport financier qui ait des montants exacts des contributions de la ville de Mont-de-Marsan. C'était plus de 30 000 euros en 2021. Moi, je ne comprends pas comment... alors qu'on est en demi-jauge, ça ne serait pas 50 000 cette année, mais peut-être que je me trompe complètement. Donc on parle de centaines de milliers d'euros, Dax, Mont-de-Marsan, Bayonne, Béziers, Arles, tous à 50 000 euros à peu près sans doute, plus les petites arènes. On peut pas, c'est trop léger de voter une convention sans ces chiffres-là. Sur Internet, le site de l'UVTF n'est pas à jour depuis plusieurs années. On ne voit pas les actions. Alors, on m'a répondu en commission que c'était des actions de lobbying. Bon, moi, je suis désolé. Comme je le disais tout à l'heure, une collectivité ne peut pas attribuer de tels fonds sans justificatif, sans transparence. L'UVTF est une structure complètement opaque. Et donc, nous voterons contre cette convention qui, d'ailleurs, ne va que dans un sens, puisqu'il y a les devoirs de la ville de Mont-de-Marsan, qui doit faire ci, qui doit faire ça, mais aucun élément ne vient jamais dans cette convention en retour.
Oui. Il faut savoir ce qu'on veut. Je pense que... Que proposons-nous et que proposez-vous en regard de l'UVTF, si l'UVTF n'existe pas ou si Mont de Marsan venait à sortir de l'UVTF? Moi, je peux entendre effectivement que tout organisme est perfectible. Mais ce que je sais, c'est que pour faire changer quelque chose, il vaut mieux être à l'intérieur et à l'intérieur essayer de transformer pour évoluer positivement, plutôt qu'être à l'extérieur et ne pas peser du tout. Et donc, si dans le fonctionnement de l'UVTF, il y a des améliorations, s'il y a peut-être, j'entends, un discours qui peut être, dans certains lieux, plus policé qu'il ne l'est, tout ça, je peux l'entendre, mais c'est parce que nous sommes à l'intérieur que nous pouvons avoir une influence pour inciter les autres ou ceux qui portent la parole, eh bien, tout simplement à avoir une parole plus adéquate à certains moments. Et ça n'est pas à l'extérieur que nous pourrons faire quelque chose. Et on le sait, et quel que soit d'ailleurs le sujet, c'est parce qu'on est nombreux et qu'on est plus forts. Et on sait que les contradicteurs, on va les appeler comme ça, ont, eux, des structures extrêmement fortes, extrêmement organisées, et assez soudé. Donc je pense qu'il faut effectivement tirer dans le même sens. Il y a cette UVTF qui existe, qui est sûrement perfectible, mais moi et notre groupe soutiendrons évidemment la signature de cette convention, étant tout de même précisé, c'est le dernier point, c'est que, on l'évoquait d'ailleurs tout à l'heure, le combat, il ne se mène pas uniquement, il se mène évidemment politiquement et dans les sphères que vous évoquiez tout à l'heure, mais il se mène aussi au niveau du lobbying, au niveau de la population, au niveau juridique aussi. Et on sait que, et notamment à un niveau juridique extrêmement élevé, et ce niveau-là implique un coût. Donc je veux dire qu'il vaut mieux fédérer nos possibilités et nos arguments, et notamment financiers, pour essayer de porter, d'avoir un poids plus important, plutôt que de combattre. C'est bien de combattre tout seul dans son coin. Hein. Pour d'autres activités, j'adore faire ça. Mais des fois, on a l'impression d'être un peu un Don Quichotte. Et être Don Quichotte, en parlant de tauromachie, ça peut plaire, mais je pense qu'il vaut mieux effectivement que l'on soit les uns avec les autres. Et je pense que notre force sera mieux écoutée. Voilà.
Juste, on va passer au vote, juste deux mots. L'UVTF, elle existe depuis 1972. Elle regroupe les 50 civils taurines. Là où je rejoins Mathieu Arras, c'est que la façon dont il faut défendre les choses a certainement évolué parce que nous sommes ultra minoritaires. Donc il y a un réel danger. Il y a un réel danger, c'est-à-dire vu de là-haut. Voilà. Alors, ça ne se fait pas comme ça en criant tout seul dans son coin, mais ça se fait de façon groupée, avec, je ferai en sorte, en effet, de pouvoir joindre les PV d'Assemblée Générale, les comptes, etc. Tout ça est complètement transparent. Il y a 50 civils qui sont dedans avec des maires, etc. Vous savez, on ne se fait pas endormir comme ça. Donc, on a les comptes sont complètement transparents, les factures, etc. Tout est validé. Donc, ça, en effet, on pourra joindre un PV comme on le fait quand on donne de l'argent à un club sportif, par exemple. Ce qui veut dire que depuis quelque temps, on n'est plus du tout sous l'angle de la défense de la tauromachie, de la corrida, même si on assume, mais de la défense des libertés et des différences et des particularités culturelles de territoire. La France, pourquoi on aime la France? Parce qu'en fait, il n'y a pas un endroit qui est pareil. Voilà. Et aujourd'hui, ce que ce monsieur veut nous imposer, c'est il veut nous imposer de manger le même fromage, le même pinard, et de pouvoir... il est en train de batailler sur un sujet où on tue moins de 1000 animaux par an, alors qu'il s'en tue 3 millions tous les jours dans les abattoirs pour manger. Et là, il est en train de batailler depuis Versailles pour expliquer à des régions du Sud comment on doit s'habiller, vivre, manger, etc. C'est ça qu'on défend. C'est une particularité culturelle. Quand quelqu'un vient en France, qu'est-ce qui l'intéressait de voir justement ce patchwork, cette diversité, dans la limite où on n'atteint pas les droits de l'homme, etc. Donc c'est ça. Et donc c'est sous cet angle-là, en effet, et là je rejoins, c'est sous cet angle-là que la défense, ce qui a un peu évolué à l'UVTF, et tous les mémoires qui sont faits, parce que le travail qui a été fait là depuis 6 mois, il est quand même remarquable. Et c'est parfois un travail qui n'est pas forcément un travail où il faut faire des grands effets de manche comme ça sur Internet ou autre, des manifestations, où on pourrait se retrouver piégé parce qu'il n'y a pas le monde qu'on veut, etc. C'est aussi un travail de lobbying et d'aller voir. C'est où que ça va se jouer? Ça va se jouer un soir avant minuit, avec des députés qui seront là ou pas là, des amendements ou pas, c'est là où ça va se jouer. Donc il faut aller, faut cibler, voilà, c'est pas la manifestation à 18 000 personnes des chasseurs, là. C'est faut aller voir les groupes un par un. C'est ce travail-là qui est fait. C'est peut-être un travail de l'ombre, mais c'est un vrai travail. Et après, on a changé, les choses ont évolué parce que les personnes que vous connaissez bien à l'UVTF étaient plutôt dans un dogme philosophique et autres avec des pavés de 40 pages imbuvables, très motivés. On n'est plus là-dedans. On est dans des outils, des kits, les 20 bonnes raisons, les 10 bonnes raisons, etc. Vulgariser, vous l'avez dit, les choses pour des gens qui sont 90% des gens n'ont jamais vu une corrida de leur vie. Mais en fait, ce qu'il faut, c'est les convaincre, et je pense que certains seront convaincus, qu'en fait, ce n'est pas la corrida qui est attaquée. C'est les particularités, les trucs. Ce n'est pas parce qu'une culture, quand même, c'est pas parce qu'une culture est minoritaire qu'elle doit disparaître. C'est ça qui est... Le problème, il est là. Hein ? Et puis après, il y a toutes les déclinaisons. On ne va pas faire la mise à mort, on va interdire aux mineurs, etc. Toutes les déclinaisons. Je ne sais pas de quel droit, dans la mesure où... Enfin, moi, je n'ai jamais vu un gamin traumatisé en sortant des arènes. Donc, de quel droit on va nous imposer, moi, parents? Il n'y a pas beaucoup de tout-petits qui vont aux arènes sans leurs parents. Donc, l'autorité parentale, il faudrait qu'elle soit décidée comme ça, de manière centralisée, sur des particularités culturelles. Donc, à ce niveau-là, et je peux rejoindre ce qui s'est dit, je vois à quoi fait allusion Mathieu Hara, c'est que le discours, il faut le vulgariser, et il ne faut plus s'adresser à... Entre nous, là, on est à peu près tous convaincus. Hein, et même ceux qui, peut-être ici, ne sont pas des aficionados, sont d'accord pour laisser cette liberté. Mais c'est plutôt là-haut où on est ultra minoritaire. Et s'il y a un coup de Trafalgar et que ça se passe mal, un soir à 11h, on peut se voir tout d'un coup. Voilà. C'est ça qui est... Mais on n'est pas sur du dogmatisme. Voilà. Et alors, quant à l'opacité, alors, mea culpa, la prochaine fois, vous aurez le PV d'Assemblée Générale, les comptes rendus, tout ce que vous voulez. Hein, c'est ça. On est 56 maires à pister ça. Hein, donc, on fait attention. Hein, voilà. Donc, mais après, en tout cas... Aujourd'hui, on est en train de parler de 50 civils, de moins de 1000 taureaux combattus. Ça représente à peine 7% des taureaux des élevages et des ganderias. Je pense que demain, la corrida n'existe plus. C'est une race particulière de bovins, une race brave qui disparaît de la planète. Sur des terres souvent arides où on ne peut pas faire grand-chose. À part peut-être demander à l'Europe de subventionner avec notre argent une économie qui serait fictive. Donc voilà, tous ces points-là et tous ces arguments-là, et je vous inviterai, je vous ferai passer bien évidemment les 20 bonnes raisons pour ne pas interdire la corrida, il ne faut pas que ce soit, mais à l'intérieur, il y a un kit, il y a des choses qui sont intéressantes et qui ne sont pas uniquement, c'est la tradition de père en fils, etc. Ça, ce n'est pas un argument, ça. Voilà, c'est un endroit, certes, de partage, de transmission, mais il n'y a pas que cet argument-là. Sur 7, pour ne pas l'oublier, et on va avancer, sur 7, allez-y.
Je ne pense pas que ce soit juste d'employer le mot minoritaire. Nous sommes majoritaires dans nos régions. C'est ce qu'il faut faire ressortir, parce que sinon, c'est un aveu de faiblesse. Ça, c'est important, de dire nous sommes majoritaires pour que nos traditions, nos arts de vivre, y continuent de vivre. Voilà.
Sur la mise en place des modalités financières du plan de défense, donc j'ai pris note. Donc il y avait des gens qui ne participaient pas au vote. Mathieu Rapp, tu participes au vote ? Tu t'abstiens. Alors, qui est contre ce... Une voix contre Benoît Piarine. Une abstention, qui s'abstient ? Une abstention, Mathieu Rapp. Et le reste, c'est voté à la majorité. Je vais vous parler sans transition. Et on va essayer, non pas d'accélérer, mais un peu quand même. La communication du rapport d'activité de Mont-de-Marsan agglomération pour 2021. Ça a été présenté en agglomération et c'est présenté ensuite pour prendre acte. Là, ce n'est pas un vote pour ou contre, hein, c'est vous prenez acte que je voulais présenter. Il s'agit du rapport d'activité de Mont-de-Marsan Agglomération. J'imagine que certains d'entre vous, et la plupart, ont dû le dérouler. Y a-t-il des... Alors, je le dis, et je le dis humblement, c'est quelque chose sur lequel on n'était pas très en avance. Hein. Il fallait qu'on fasse les choses. On l'a fait une année en vidéo, on l'a fait un peu... Voilà. On progresse, on se rapproche de la cible qui est d'avoir un rapport d'activité... le plus détaillé possible, un peu marketé avec des détails, mais c'est toujours perfectible. Donc, avez-vous des remarques par rapport à ça avant de l'entériner ?
Oui, juste, je pense, sur la forme, j'ai lu tout le document et je pense qu'il y a une erreur de copier-coller entre les pages 20 et 48, parce qu'il y a un agent en développement durable et 13 agents en communication. Alors, je pense que ça va être l'inverse.
Est-ce qu'il y a d'autres remarques ? Et après, je vais vous répondre. Voilà. Alors, estampillé sur le service développement durable, il y a une personne, en effet. Une chargée de mission. Mais bien heureusement, dans tous les services, on a une action assez transversale sur ce sujet-là. Donc, voilà. Mais on pourra... Voilà. Oui, oui. Alors, heureusement qu'elle n'est pas seule. Après, elle a beaucoup de travail. En effet, il y a bien évidemment des réflexions pour dans ce service spécifique, mais elle a une fonction très, très transverse. Vous savez, c'est comme il y a une référente handicap, il n'y en a qu'une seule. Mais s'il y a bien quelque chose qui est transverse, c'est le handicap. Donc ça se traite dans tous les... Voilà, il y a une référente handicap à l'agglo. Mais c'est pas... il n'y a pas qu'une personne qui traite le handicap à l'agglo, heureusement. Il n'y en a pas suffisamment à mon goût, mais il n'y en a pas qu'une. Est-ce qu'il y a des remarques sur ce qui a été là, ou est-ce qu'il y avait des coquilles qui ont été détectées ? Donc on prend acte que ce rapport existe, vous a été présenté... Et je passe à la délibération numéro 6. Je vais passer la parole à Pascal, pardon.
Oui, merci, monsieur le maire. Dans cette délibération, c'est la modification du règlement intérieur du conseil municipal que j'avais présenté le 28 septembre 2020. Nous avions voté une délibération et afin de se mettre en conformité avec le règlement en vigueur, il est proposé de modifier les articles 30, 32 et 33 règlement dans la mesure où il y a des dispositions qui ont changé, notamment sur le déroulement, l'organisation des votes à bulletin secret. Je ne pense pas nécessaire de vous faire une lecture exhaustive de ces articles qui sont annexés dans le règlement intérieur. Par contre, je vous demande d'approuver cette délibération pour que monsieur le maire puisse signer tous les documents nécessaires à la présente délibération.
Merci beaucoup, Pascal. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des remarques, des choses qui appellent votre attention sur ce règlement ? Vous avez en jaune les choses qui sont ajoutées. Pas de remarques particulières. Donc il s'agit là d'approuver les modifications apportées. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Donc c'est voté à l'unanimité. La délibération suivante, Hervé Bayard, il s'agit de la SATEL. Gilles Chauvin, bien sûr. Excuse-moi.
Merci, monsieur le maire. Délibération pour la modification du statut de la SATEL. La SATEL, vous savez, c'est une société d'aménagement des territoires et d'équipement des Landes. C'est une société qui dépend du conseil départemental essentiellement. Il y a 11 actionnaires. Et le 18 mars 2022, on a proposé de modifier ses statuts afin un petit peu d'étoileter et de permettre une activité plus importante de la SATEL sur le département. Vous verrez dans la délibération que l'ancienne mouture et la nouvelle rédaction de cette modification. En particulier, la société a pour objet d'étudier et ou de réaliser, ce qui permet d'être un petit peu plus large sur la façon de travailler, et également lié à la gestion des espaces boisés départementaux, la mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains, ce qui permet à la SATEL d'intervenir sur tout le département, quels que soient les terrains envisagé. Voilà. Donc on demande à ce que notre assemblée vote cette délibération si elle le désire.
Merci, Monsieur Chauvin. Y a-t-il des questions? Il y a une délibération qui est liée après. Donc, sur cette délibération, y a-t-il des voix contre? Y a-t-il des abstentions? Merci. Donc, délibération suivante, Gilles.
Oui, délibération suivante qui bien sûr suit celle qui vient d'être votée par notre assemblée. Il y a un pacte d'actionnaires qui normalement est toujours mis en place dans une société. Là, vous verrez dans l'annexe, c'est un pacte qui fait 42 pages et en fait qui reprend la façon dont doivent travailler les actionnaires au sein de cette SATEL avec toutes les contraintes et les délibérations, tout est listé, ainsi que le poids de chaque actionnaire dans cette assemblée. Donc, on nous demande de voter cette. Je rappelle que la ville de Mont-de-Marsan est partenaire à 2,27% de la SATEL. Mais elle a un droit de vote également au niveau de l'Assemblée générale et du Conseil d'administration. Donc, nous sommes des parties prenantes de cette société avec laquelle, je le répète encore une fois, nous travaillons très, très bien.
Y a-t-il des questions? Pas de questions. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie de voter à l'unanimité. Délibération suivante, il s'agit d'une adoption d'un protocole transactionnel dans le cadre du projet de l'îlot LOLOM. Gilles Chauvin.
Problème de truc, voilà. OK. Merci, monsieur le maire. La société Monteau exploite au 13 impasse Joseph Lolon, à Mont-de-Marsan, un fonds artisanal de plomb chauffagiste. Par un avenant en date du 5 janvier 2014, ce local était loué au preneur aux mêmes conditions que le contrat initial. Les biens loués ont été vendus à la ville de Mont-de-Marsan le 25 novembre 2021. Le locataire en a été informé postérieurement à la transaction. Par acte du 23 décembre 2021, la collectivité délivrait aux épis Monteau un congé sans offre de renouvellement. Par acte des 16 et 31 mai 2022, cette même société a signé devant le tribunal judiciaire de Dax Madame Lamoli et la ville de Mont-de-Marsan. La société, en effet, à titre principal, la nullité de la vente et à titre subsidiaire, une indemnité d'éviction. Un protocole de transaction et de médiation a été mis en place avec cette société et il a été conclu le 9 septembre 2022, une convention de procédure participative. Dès lors, les parties sont parvenues à un accord total dont les caractéristiques essentielles sont reprises dans cette délibération. Il sera versé à la société Monteau à titre d'indemnité d'éviction la somme globale de 75 000 euros. Acquitté en deux règlements. Cette société se maintiendra dans les lieux jusqu'au 31 mars 2023 au plus tard. Et en compensation du paiement échelonné de l'indemnité, la ville de Mont-de-Marsan renonce à percevoir des loyers mensuels sur cette période de novembre 22 à mars 23. Cette société se désise de sa demande d'expertise et de demandes accessoires, ce qui fait que nous allons pouvoir donc commencer les travaux sur Stélio Lelon et donc aboutir à ce qu'on voulait faire. Donc là, on demande à notre Assemblée de voter en faveur de cette délibération d'une adoption d'un protocole transactionnel.
Merci Gilles Chauvin. Avez-vous des remarques sur cet accord à l'amiable, en fait, hein, avec un des derniers, le dernier occupant de l'espace Lolom? Avez-vous des remarques, des questions, monsieur?
Ce sera celui-là. Oui, alors cette délibération me paraît un peu surprenante. Ça me semble une somme importante pour déménager un local de stockage. Ce n'est pas un commerce, c'est un local uniquement où on stocke du matériel. Donc que ce soit là ou ailleurs, il n'y a aucune perte, aucune préjudice. On pourrait éventuellement voir les frais de déménagement, mais ça me paraît très important. J'aimerais savoir sur quels critères est-ce que ça a été calculé, est-ce qu'il y a un mode de calcul, quelque chose, comment ça a été négocié, ensuite quand est-ce que finit le bail, parce que est-ce qu'on a besoin tout de suite qu'il parte, le bail est marqué 2014, alors je ne sais pas si c'est un 369, ça se termine en 23, mais peut-être qu'il a été renouvelé depuis, je ne sais pas, enfin on a très peu d'informations, on n'a pas non plus la convention de procédure participative qui a été conclue, donc je trouve qu'on vote à l'aveugle sur une somme importante. On a quand même dans cette, à Mont-de-Marsan et dans cette pièce, beaucoup de gens qui exercent une activité libérale ou artisanale. Franchement, 75 000 euros pour déménager, on a beaucoup qui ont envie d'être. On va avoir beaucoup de candidats à l'éviction, j'ai l'impression, si c'est le tarif. En tout cas, ça me paraît important et surtout assez peu détaillé dans les explications. Merci.
Merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? J'essaie de faire une réponse globale avec quelques éléments, les éléments que j'ai. Y a-t-il d'autres remarques? Non? Pas de remarques particulières? Alors, vous dire globalement, donc, là, il s'agit en effet d'indemniser un artisan qui est là depuis très longtemps à l'île de l'Homme. C'est un plombier chauffagiste qui travaille d'ailleurs en centre-ville, surtout avec un marché lié à des résidences, des syndics. Donc, c'est vrai que ça, son emplacement en centre-ville est important dans l'exercice de ses fonctions, même si ce n'est pas un bail commercial avec une chalandise commerciale. Donc, c'est aussi une situation qu'il faut replacer dans un contexte. On est sur l'île de l'Homme, je crois que c'est TTC, 3 millions et quelques de travaux. Donc là, on a dans le plan de financement, on avait en effet dans le plan de financement l'éventualité d'avoir à devoir indemniser ou des évictions, puisque ce n'est pas le seul occupant des 25 garages, des locaux. Donc c'est le seul avec qui, en tout cas, il a fallu trouver un accord à l'amiable. 75 000 euros, c'est à peine 1,5% du budget total de l'opération. Moi je dirais que c'est aussi une situation un peu vertueuse quand même, parce que cette somme là permet à cet artisan qui a pignon sur rue de pouvoir aussi transmettre, hein, c'est quelqu'un qui est bientôt à la retraite et qui je crois son fils qui reprend, donc un investissement important avec un doublon entre le loyer, le prêt, etc. Donc ça correspond aussi à une vision de développement économique, c'est bien d'avoir des artisans sur le territoire. Je pense que la somme n'est pas si importante que ça, même si elle est toujours trop importante. On a connu, vous le savez Mathieu, des fois des contentieux qui ont traîné avec des sommes bien plus importantes. Je trouve que la situation a été relativement maîtrisée, négociée, cadrée. C'est un accord à l'amiable avec deux conseils, deux avocats. On n'a pas été. L'idée, c'était de pouvoir, se mettre d'accord pour éviter, par une procédure participative, pour éviter, pour interrompre une procédure de justice, en fait. Hein. Donc voilà, c'est étalé dans le temps. Donc voilà, ça permet aussi d'avoir cet étalement de règlement. Le protocole, il est confidentiel. Bon, je pourrais bien évidemment recevoir qui souhaite le consulter, mais c'est un protocole qui est confidentiel. Mais globalement, vous avez les grandes lignes. Il n'y a pas beaucoup de surprises là-dessus. La méthode. La méthode, il y en a qui connaissent les méthodes d'évaluation, hein, que ce soit. Moi, en tout cas, je connais certaines méthodes d'évaluation dans mes fonctions anciennes. Elle est évidemment plus facile sur un bail commercial que sur un bail artisanal, forcément. Il y a de la négociation, il y a les frais de déménagement, il y a les frais de réinstallation, il y a le fait qu'il y a un préjudice subi par le fait que, pour lui, son activité en centre-ville était importante. Ce n'est pas forcément la même clientèle qu'un plombier différent. Il y a cette notion de double loyer, cette obligation d'investir pour s'endetter et rebondir ailleurs. Et c'est une activité qui est en pénurie. Hein. On parle de pénurie de manœuvre. Je n'ai pas envie qu'il aille ailleurs qu'à Mont-de-Marsan. Il y a le trouble de l'activité. Voilà. Et puis après, comme dans tout accord à l'amiable, il y a une négociation entre les deux parties. Et ça, c'est des choses qui existent. Qui ont existé dans le passé pour la LGV, pour le cinéma, pour les galeries, pour Rozanov, pour plein de sujets. Là, on est sur une somme, c'est toujours une somme importante, mais on arrive quand même à des sommes qui sont absorbables au regard de l'intérêt de ce projet. Je rappelle qu'on est sur 6600 m², que l'on va complètement renaturer, c'est-à-dire qu'on va enlever toutes les parties industrielles et autres, et on va imperméabiliser les sols, pour y faire un espace partagé de déplacement doux, de jonction entre le bas et le haut de la ville, avec des déambulations, avec pourquoi pas un théâtre de verdure, avec un espace pour les jeunes, un espace de banc, un espace de fitness. Voilà. Donc c'est vraiment un enjeu important qu'il ne fallait pas bloquer pour un montant comme celui-ci qui représente, je le rappelle, même pas 1,5% du global. Pour le bail. Le bail, donc, il était tacite depuis le 10-06-2018. La fin du 3-6-9 était le 9-06-2018. Nous avons donné un congé par huissier le 23-12-2021. Voilà. Nous sommes, et c'est une des conditions suspensives pour qu'on puisse prendre la jouissance globale de ce bien, puisque l'appel qu'a fait monsieur, la personne en question, pouvait suspendre la vente, ben c'était de pouvoir trouver un accord à l'amiable. Donc les deux parties se sont mis d'accord. Cette procédure a été participative, tout le monde a échangé avec ses arguments, et on arrive à une somme de 75 000 euros qui sera payée en deux fois, 2022 et 2024. Ça ne me semble pas complètement irréaliste. Voilà, on regarde. Après, sur les baux artisanats, un bail artisanal, vous savez comme moi qu'il n'y a pas de méthode à proprement dite, parce qu'en effet, il n'y a pas de notion de chiffre d'affaires, de chalandise, de voilà. Donc c'est de la négociation.
C'est vous. Juste, est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle est la loi ? Moi, je ne suis pas du tout de ce secteur-là, c'est-à-dire... qui est en tort ? Est-ce que c'est l'ancienne propriétaire ? Et pourquoi c'est pas elle qui essaie de régler cette situation ? Ou il y a que moi qui me pose cette question-là ?
Non, la question s'est posée. Alors, je vais peut-être pas suffisamment précis, mais en effet, le premier recours pouvait être vis-à-vis du vendeur. C'est-à-dire que vous n'avez pas pris soin de proposer à mon occupant d'être prioritaire sur l'achat et de le prévenir. Ça aurait pu être ça. Sauf qu'il y a une disposition, c'est ce qui a été acté par nos deux conseils, qui fait que comme on est sur un ensemble avec plusieurs, c'est pas qu'un seul tenant, la propriétaire ne pouvait pas être actionnée pour défaut d'information. Donc, ce qui fait qu'en fait, derrière, c'est à nous de pouvoir trouver une solution. On a deux solutions. Soit on dit, ben non, on va faire durer tout ça, puis on fait durer. Soit on dit, on essaye de trouver quelque chose pour débloquer la situation dans un dossier qui est important, 3 millions d'euros, où on a des subventions, avec des deadlines pour les subventions, et où on essaye de trouver dans un accord gagnant-gagnant le moins pénalisant possible pour l'argent du contribuable, et quand même aidant pour, je le rappelle, une entreprise et un artisan montois, hein, qui lui, au départ, n'a rien demandé, d'essayer de trouver, de débloquer une situation. Donc, pour répondre à votre question, oui, cette question a été posée au départ. Et le premier réflexe que nous avons pu avoir, nous, et que d'ailleurs le requérant avait, c'est de dire, moi, le propriétaire qui vend, il vend, mais sans m'avoir prévenu ou sans m'avoir proposé, en tout cas, une sorte de priorité. Mais en réalité, ce dispositif-là, au regard... Je n'ai pas forcément tous les éléments juridiques et les termes appropriés, mais au regard du fait qu'on soit dans un ensemble avec plusieurs espaces et plusieurs lots, ne pouvait pas tenir, voilà, tout simplement. Donc c'était à nous de trouver une solution. On pouvait très bien ne pas transiger et dire non, on part en justice et on y va. On pouvait très bien le faire. Nous avons choisi d'essayer de trouver une solution à l'amiable. Alors, les autres locataires ont été informés de mémoire au moment de la... D'abord, dans un premier temps, par le vendeur. Et il y a un certain nombre de locataires qui ont pu partir. Il n'a pas forcément informé tous les locataires. Et ensuite, nous avons repris le relais et nous avons continué parce qu'il y avait un certain nombre de baux et puis de choses qui n'étaient pas du tout écrites. Vous êtes sur une très vieille emprise avec des petits garages où il n'y avait des fois aucune trace écrite de bail, et donc il a fallu reconstituer ça un petit peu, d'un côté avant de vendre le vendeur, et nous ensuite on a repris le relais. La vente s'est faite sans conditions suspensives, parce que sinon la vente était plus difficile à obtenir. Je rappelle que c'est 6 600 m² de terres constructibles en hypercœur de ville achetées au prix de 1 million d'euros. Imaginez bien qu'un promoteur qui vient là, il l'aurait payé un petit peu plus cher et on aurait dû préempter beaucoup plus haut. Donc, une des conditions suspensives aurait pu être de dire « Vendeur, on vous achète que si vous libérez la place ». Ça n'a pas été ce choix-là dans la négociation. On a préféré faire notre affaire de la libération des différents occupants, ce qui a été fait d'ailleurs dans la majeure partie, sauf pour cette entreprise qui, il faut le reconnaître, avait un intérêt aussi à travailler dans cet endroit-là. Donc, avec quand même un préjudice difficile à mesurer mathématiquement, mais qu'il fallait négocier.
Oui, mais dès lors qu'il y a effectivement une transaction, c'est que chacun fait un pas vers l'autre.
évidemment, mais peut-être que c'est parce que nous-mêmes, nous avions fait un pas de côté ou un pas de danse qui ne convenait pas. Parce que qu'est-ce qui se passe effectivement dans ce dossier? Alors, je le découvre en l'état, hein, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a un vendeur qui vend à nous et qui n'informe pas tous ses locataires. Bien. Donc, à mon sens, celui qui est en tort, c'est le vendeur. Mais nous-mêmes, peut-être que nous aurions pu prendre la précaution de savoir si dans les lieux, il n'y avait pas justement des locataires. Bon. Après, j'entends que... Mais à mon sens, vous savez, c'est ça qui dénote un tout petit peu et que je ne comprends pas. Et, vous savez, il n'y a pas de honte à dire qu'on s'est trompé. Et que, parce qu'on s'est trompé, mais qu'ensuite cette opération nous intéresse pour ce que vous avez expliqué, ce que ça je peux entendre, ben, il va falloir mettre la main au porte-monnaie. Mais il n'y a pas de honte à dire, y compris quand on préside un exécutif, on a peut-être été un peu négligent, on n'a pas regardé comme il fallait, et voilà, c'est tout. Donc moi, c'est pas une question de... C'est pour ça que je ne suis pas intervenu au tout début, je ne suis pas intervenu sur le fond de ce dossier. Parce que j'entends parfaitement que compte tenu du projet que vous poursuivez, les 75 000 euros, c'est la réponse que vous avez faite, hein, c'est 1% de l'enveloppe globale, etc. Et on voit l'utilité de la chose. Mais, une fois de plus, je suis étonné que M. Hara, effectivement, soit aussi pourfendeur, parce qu'il me semble que d'autres personnes dont il est proche se sont également trompées sur d'autres projets. Il n'y a pas de honte, d'un côté comme de l'autre, à dire là, on s'est trompé et ça nous fait mettre la main au porte-monnaie, dos à dos.
Attendez. Mathieu, je vous laisse répondre après, juste parce que tant que c'est frais dans ma tête. Je peux peut-être ne pas utiliser tous les termes techniques, juridiques, appropriés, parce que je ne sais pas, vous avez compris que c'était pas forcément ma fibre. Oui, non. Je vais vous répondre. Tout simplement, on a écrit bien évidemment à tout le monde, hein, et on l'a écrit très très vite. Hein, donc à partir du moment où on a d'abord le vendeur a écrit, puis ensuite on a écrit. Et oui, en effet, on espérait que tout le monde s'en aille en disant super, c'est génial de s'en aller. On aurait pu d'ailleurs avoir d'autres mauvaises surprises, puisqu'il y avait sur l'arrière, d'autres occupants qui disent ben non, moi j'ai un préjudice, et puis je vais me laisser faire, et puis on va aller batailler, etc. On aurait pu, hein, parce que sur l'arrière, il y avait des hangars de stockage et autres. Il s'est trouvé que sur, je ne vais pas vous dire bêtises, mais c'est au moins 20 garages, au moins 3 locataires au fond, au moins 2 ou 3 entreprises dedans, plus des camping-cars qui avaient des beaux, pas des beaux, etc., des trucs faits à l'époque où tout ne s'écrivait pas. Donc c'était un peu sportif. Et il se trouve en effet que, suite au premier courrier du propriétaire, vendeur, puis ensuite nous, quand on a pris le relais avec nos services immeubles, on a refait des courriers. Est-ce que vous êtes parti? Quand est-ce que vous voulez partir, etc. On n'est pas pressé, prenez le temps. Enfin, il faudra partir. Ben oui, on s'est retrouvé avec cette personne-là qui défend son bout de gras. Alors, je défends la collectivité et l'argent du contribuable, mais je vais essayer de me mettre de son côté. Je peux comprendre certains de ses arguments. C'est en plus quelqu'un qui a pignon sur rue et qui... On défend le monde artisanal et le monde des entreprises. Ça s'inscrit dans une transmission. Donc on a essayé de respecter ces arguments-là. Encore une fois, si vous voulez que je vous dise que je me suis trompé, je ne vais pas vous dire ça, vous me connaissez. Par contre, je vais vous dire que j'aurais préféré qu'ils fassent comme les autres et puis qu'on se quitte bons amis comme ça. Ça n'a pas fonctionné de cette façon-là. Je pense que dans un négo, ça aurait pu être pire. Et on a travaillé avec de bons conseils d'un côté et de l'autre qui avaient une volonté commune d'aboutir pour un projet, vous l'avez souligné, sur lequel on conteste, on est tous en face par rapport au bien fondé de ce projet. Donc on s'en sort pas trop mal quand même. Et on a une entreprise de plombier qui redémarre pour 20 ans de plus à Mont-de-Marsan, donc c'est très bien.
Oui, ça me manquait, monsieur Dutien, que vous m'interpelliez. D'ailleurs, j'allais vous interpeller, je vous trouvais bien silencieux sur ce dossier, alors que vous aviez beaucoup de sourires. D'un mot sur des choses qui ont pu avoir lieu dans le passé, si quelqu'un a le moindre doute sur la moindre opération où il y aurait un moindre flou, je l'invite à le dire, et qu'on en débatte publiquement. Voilà. Hein, il n'y a aucun flou sur aucune opération, jamais. Non, mais je le dis à ceux qui ne l'ont dit, pas vous, mais voilà. Ensuite, monsieur, est-ce que je peux ?
Il n'y a absolument pas de flou, il y a une erreur juridique, puisqu'on a été condamné, donc ce n'est pas un flou, c'est jugé. Ce n'est pas flou, c'est clair.
Non,
c'est clair, si on s'est trompé, là. Conseil d'État l'a dit, monsieur.
Oui, il se trouve, monsieur Dutin, si vous voulez qu'on parle du cinéma, c'est rigolo, il se trouve que, oui, il... Alors, excusez-moi, d'accord. Monsieur le maire,
n'oubliez pas qu'on parlait de Lilo Lolom. Hein, je voudrais pas que.
Monsieur le maire, est-ce on que a perdu temps avec la tour machine. Interrompu par
Allez,
monsieur.
Si vous pouvez assez brièvement vous exprimer, puis après on va essayer de passer à un autre sujet.
S'il me laisse parler, je le ferai. Très bien. Donc, s'il y a le moindre doute sur le moindre dossier, il n'y a jamais eu, non, je suis désolé, de sommes qui ont été versées sans aucun élément, sans un bout de papier, sans un chiffre, sans rien. Jamais. Il y a eu des évictions de commerce. Avec des protocoles transactionnels faits une fois, je crois, avec des chiffres, avec là aussi quelque chose de tout à fait transparent. Il y a eu des expropriations qui ont été faites sur la base d'estimation des domaines. Il y a eu des subventions faites à partir de documents extrêmement complets. Il n'y a jamais eu de choses sans justification. Jamais. Si vous voulez parler du cinéma, monsieur Hutin, on en reparlera prochainement, je pense. On ne va pas refaire le débat ce soir. Quant aux galeries, on s'est trompé. Enfin, on en reparlera aussi de toute façon. Mais je voulais juste, au cinéma, monsieur Hutin, vous savez qu'un décret a été pris cet été pour réparer la décision du Conseil d'État. Ça, vous n'en parlez peu, ni de tous les jugements qu'il y a eu avant. Vous vous focalisez sur. Non. Bon, bref. Sur l'île de l'homme, le projet. Oui, non, ben non, parce qu'il n'existe déjà plus. Hein, le décret l'a annulé, vous savez. Oui. Du 18 août 2022. Oui, bah oui, quand même. Ilo Lolom, moi je redis ce que j'ai dit. Oui, c'est un projet important. Bien sûr qu'il faut aider les artisans montois, mais enfin, si à chaque fois qu'il y a une transmission, on donne 75 000 euros ou un déménagement, je vous le dis, on ne va pas s'en sortir. Ça va être vite compliqué. Moi, je redis ce que j'ai dit. On n'a pas de mode de calcul. Vous nous avez dit qu'on ne l'a pas. On n'a pas de perte, pas de préjudice. On a quelqu'un qui est dans un bail qui a été terminé il y a 4 ans. Parce qu'il est tacite depuis, et ça coûte 75 000 euros. Ça me paraît très peu justifié et beaucoup d'argent. Voilà, donc je voterai contre. Merci.
On vote ? Allez. Donc sur la délibération numéro 9, qui est contre, donc une voix contre Mathieu Arras et Marie-Pierre Gazot, qui s'abstient. Donc il y a M. Pierrine, M. Rouffia et Mme Darteron. Et donc cet accord voté à la majorité. La suivante, je pense que ça fera moins de débat, c'est les ravalements de façade. Gilles Chauvin.
Il faut une victime dans ce... Bon, écoutez, comme tous les... Régulièrement au conseil municipal, nous passons en délibération de la campagne des ravalements de façade. Vous savez que depuis 2009, la ville de Mont-de-Marsan s'est engagée dans une campagne incitative de ravalement avec l'octroi d'une subvention de 30% du montant des travaux. En janvier 2019, un dispositif de ravalement obligatoire a été instauré pour certains immeubles parce que les propriétaires ne voulaient pas justement ravaler leur façade dégradée et devant l'inertie des propriétaires, il a été décidé donc de passer à des mesures plus incitatives. C'est-à-dire que les personnes qui ne feraient pas le ravalement de façade au bout d'un an, ce ravalement serait fait par un tiers et la facture envoyée aux propriétaires. Là, on n'est pas dans cette logique ce soir, on est dans la logique justement où des propriétaires ont accepté de ravaler leur façade avec la subvention. On proposait au conseil municipal de retenir 6 dossiers de subventionnement. Pour 6 immeubles, immeuble situé au 12 rue Frédéric Bastia, copropriété du 12, représenté par M. Ordonès, montant des travaux subventionnables 50 080 92, montant de la subvention 15 025. Immeuble situé 29 rue Bastia, appartenant à M. Petit, montant 9 309 30, subvention à 2 693. Immeuble situé 19 rue Montluc, société Chemery-Lubreil, représenté par Mme Chemery. 4 339 75, montant de la subvention 1302, immeuble situé 74 rue Gambetta, appartenant toujours à la même société, représentés toujours par un chèmery, ces deux immeubles contigus, 4568,80 € de travaux, subvention 1371, immeuble situé 76 rue Gambetta, toujours la même société, toujours la même personne qui la représente, subvention 5614,85, montant de subvention 1685 €, et enfin, immeuble situé rue Armand du Lamont au 11, appartenant à la société Petra, représentée par un Prieto, montant 95 163,89, subvention 28 549. Voilà, monsieur le maire, mes chers collègues, les subventions qu'on vous propose de voter pour les façades. Merci.
Allez, y a-t-il des questions ? Pas de questions ? Une question, madame, j'avais pas vu. Madame Cavanier.
Ah, ça y est. Oui, monsieur Chauvin, monsieur le maire, ce qui nous interpelle dans votre présentation du sujet sur les façades est cette phrase, vous en avez parlé, monsieur Chauvin, je vais la citer dans son intégralité. Un dispositif de ravalement obligatoire a été instauré pour certains immeubles ciblés dans les rues principales, dont l'état fortement dégradé et l'inertie des propriétaires concernés allaient à l'encontre de la mise en valeur du centre-ville et de son patrimoine bâti. Parlons-en de la mise en valeur du centre-ville et de son patrimoine bâti. Quel exemple la ville donne-t-elle en la matière ? Comment met-elle en valeur son centre-ville et préserve-t-elle son patrimoine historique ? L'inertie n'est pas que du côté des propriétaires. Et la ville ne fait pas preuve d'exemplarité en termes de mise en valeur de ses vestiges du passé. L'exemple le plus frappant est certainement la rue qui devrait être le fleuron historique de la ville, la rue des Arceaux. Un permis de construire délivré de manière inconsidérée a permis à un promoteur privé de construire une résidence mitoyenne à cette ruelle qui a eu pour conséquence de voir s'effondrer l'un de ses arceaux historiques. Et ce n'est pas rien, car c'est un pan de l'histoire et du patrimoine local qui s'est écroulé sous des coups de marteau-piqueur au profit d'une résidence de standing qui aurait pu être construite ailleurs. Mais ce n'est pas tout, car cette rue est un réceptacle de tags sur les portes, sur les façades et de déchets en tout genre. Et que dire de sa chaussée, bitumée, défoncée, rapiécée ? Puisque l'une des restaurations de façade concerne une maison située rue Armand du Lamont, parlons-en aussi de cette rue, certainement l'une des plus sordides et abandonnées du quartier de la Madeleine. Ici se trouve l'ancienne maison d'arrêt, vendue au privé, dont la façade est classée monument historique, plaque explicative à l'appui, qui jouxte une fenêtre sale munie d'un store à lattes cassé. Dans cette rue se trouve aussi le passage censé donner l'accès à l'une des rues historiques de la ville, la rue Maubec, qui abrite deux maisons romanes, vestiges historiques principaux de la ville. Ce passage tient par des étais de bois, il menace de s'effondrer et il est le réceptacle de déchets en tout genre, comme la rue des Arceaux. Comment une ville qui a décidé de consacrer un budget pharaonique à la restructuration totale de son musée, projet que nous avons voté, peut-elle ignorer les rues chargées d'histoire qui l'entourent ? C'est pour nous assez incompréhensible. Un projet culturel qui a du sens doit traiter le patrimoine historique dans sa globalité, pas comme un puzzle. Restaurer la rue des Arceaux, la nettoyer, la remettre à neuf ses façades, paver le sol, c'est certes un budget, mais peut-être pas si colossale que ça, car elle est petite, cette ruelle. Et c'est la même chose pour le passage Maubec. Les restaurer, c'est respecter l'histoire. C'est accueillir nos visiteurs venus d'ailleurs, avec fierté. C'est redonner du sens et une âme à la ville. Le dernier point de mon intervention portera sur la transmission de la culture aux générations futures, en lien avec les premiers points que nous avons abordés concernant les cultures traditionnelles. Notre mission, nous le pensons, est de préserver sous toutes ses formes le patrimoine historique de notre ville, de le faire vivre autour d'événements, de transmettre une mémoire locale vivante aux générations futures, par, comme l'a évoqué Céline, à l'apprentissage des langues de France, par la réinstallation du conseil municipal des enfants, par des commémorations et des lectures de textes devant le mémorial des enfants juifs. Ainsi, nous transmettrons aux générations futures la culture essentielle locale qui leur permettra d'apprendre, de comprendre, de réfléchir, puis d'agir pour devenir les citoyens de demain. Ceci dit, nous allons voter pour la restauration des façades. Mais voilà, je voulais parler quand même de l'état de la ville et notamment de cette rue des Arceaux qui est dans cet état lamentable depuis des années et on ne fait rien. Voilà.
Très bien. Madame Cavagnier, je suis de votre avis.
C'est formidable, hein?
Je suis de votre avis sur la nécessité de préserver notre patrimoine, parce que c'est notre histoire, c'est également un élément fédérateur autour duquel on doit être capable de se retrouver. La rue des Arceaux, j'y étais avec Philippe de Marnix il y a 3 semaines. Justement, vous voyez, on aurait peut-être dû vous inviter. On aurait peut-être dû vous y inviter. Justement parce qu'on se posait la question à savoir de quelle façon on allait pouvoir valoriser ce patrimoine et faire le constat qu'en effet on ne pouvait pas laisser cette rue dans cet état. D'autant plus que l'itinéraire qui est conseillé par l'Office du tourisme passe dans cette rue et qu'il est difficile d'imaginer que les touristes découvrent notre ville et ses atouts en passant par cette rue des Arceaux qui en effet nécessite d'être repensé, valorisé, réimaginé, voilà. J'étais hier avec l'architecte conseil de la ville, Olivier Boursicot, et nous avions cet échange, justement, sur cette rue-là, savoir quelle démarche on pouvait engager, quel processus on pouvait mettre en place pour valoriser cette rue, et puis imaginer, peut-être y consacrer un budget, un petit budget, dès l'année prochaine. Voilà. Donc vous voyez, je ne peux pas vous dire autre chose que je suis d'accord avec vous sur la nécessité à la fois de préserver notre patrimoine. Alors notre patrimoine, il n'y a pas que ces rues-là, parce qu'il y a également l'église de la Madeleine, où régulièrement nous faisons des travaux. Et puis également, vous en avez parlé, les maisons romanes qui existent. Vous savez qu'on a un projet ambitieux pour notre musée. Hein, on va y consacrer beaucoup d'argent. Je pense que vous adhérez à la démarche. C'est aussi du patrimoine que nous valorisons, puisque ce sont également 2 maisons romanes qui sont accolées. Hein. On appelle ça un donjon, mais voilà. Bon, après, je ne vais pas vous expliquer ce qu'est notre ville. Vous le savez aussi bien que moi et que nous tous. Donc voilà, pour vous dire qu'en effet, on se préoccupe de cette question. Le centre-ville, ce n'est pas simplement du ravalement de façade. C'est également du patrimoine et on fait tout ce qu'on essaie. Alors, modestement, avec beaucoup d'humilité, vous savez, il faut aborder tout ça avec beaucoup, parce que c'est l'histoire, et l'histoire, il faut l'aborder avec beaucoup d'humilité et de modestie. On se préoccupe de tout ça, et vous verrez que dans les années à venir, il y aura des changements en la matière.
Bien, c'est parfait, c'est une très bonne nouvelle. Je vous remercie.
Puis je vous remercie d'avoir souligné, je ne prends pas ça comme un compliment, mais d'avoir souligné ce qui se fait sur le mémorial des enfants juifs et ce qui se fait au niveau du conseil municipal d'enfants qui va voir le jour prochainement. Il faut qu'on vote là. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Et je vais passer donc, je fais une transition, la parole à Jean-Jacques Gourdon pour nous parler donc de ce qui a déjà été pris. C'est toi que j'ai zappé? Pardon. Je vais passer la parole à Marie-Christine pour quelque chose que vous maîtrisez certainement, qui est le Pollinarium Sentinelle.
Super. Merci, Monsieur le maire. Dans le cadre de ses actions en matière de développement durable, la ville de Mont-de-Marsan souhaite développer un projet de Pollinarium Sentinelle. Le réchauffement climatique a un impact sur la gravité et la durée des allergies au pollen. Avec la hausse des températures, davantage de pollens sont libérés et ils sont plus allergisants. Sans compter que la saison de la pollinisation risque d'être plus longue. La ville de Mont-de-Marsan a donc le projet d'une création d'un pollinarium sentinelle, qui est un outil thérapeutique d'information pour les allergiques au pollen et les professionnels de santé. Visuellement, c'est un espace dédié dans un jardin entretenu par des professionnels, jardiniers ou botanistes, où sont rassemblées les principales espèces de plantes allergisantes de la région, graminées, herbacées, arbustes et arbres. Les jardiniers observent quotidiennement les plantes afin de détecter les dates précises de leur début et fin d'émission de pollen. Ces informations sont transmises en temps réel aux patients allergiques et aux professionnels de santé inscrits à la newsletter Alerte Pollen. Cette information précoce permet aux personnes allergiques de commencer leur traitement avant l'apparition des premiers symptômes. Nous avons identifié un espace de 150 mètres carrés dans le parc Jean Rameau et nous allons associer des services municipaux, notamment le service des espaces verts et des partenaires extérieurs qui sont l'Agence régionale de santé, l'ATMO Nouvelle-Aquitaine, Observatoire de la qualité de l'air, et l'Association des Pollinariums Sentinelles de France. Cette association est en charge du développement, de l'organisation et de l'animation du réseau des Pollinariums de France. Elle dispose d'un savoir-faire pour la création des Pollinariums, la récolte et la transmission des données recueillies. À ce jour, 15 villes sont dotées d'un Pollinarium Sentinelle. Il nous est donc proposé d'adhérer à cette association afin de mener à bien ce projet. Le coût de l'adhésion est estimé à 300 euros par an. Je vous rappelle aussi que notre chargée de mission m'a demandé que vous pensiez à vous inscrire auprès d'elle pour l'atelier La fresque du climat qui aura lieu le 6 décembre prochain à l'Auberge Landaise.
Allez-y, pardon, je vous passe la parole.
Ah, c'est bon. C'est anecdotique, enfin anecdotique, il y a une faute. Il faut mettre traitement précoce de la maladie allergique au pollen au pluriel, parce qu'il y a plusieurs pollens. Il n'y a pas qu'un pollen. Voilà, donc il faut le mettre au pluriel, ce serait mieux. Et après, graines de pollen aussi, il faudrait le mettre au pluriel. Céline et moi, on fait dans la correction orthographique.
Sur les langues de France, je ne vais pas contredire Céline Piau, et sur le pollen, promis, je ne vous embêterai pas. Y a-t-il des remarques sur le fond de cette délibération? Sinon, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Donc ça s'est voté à l'unanimité. Et donc voilà, on y arrive. Donc Jean-Jacques, pour nous présenter ce qui avait été présenté aussi en agglo, c'est-à-dire le projet global de territoire, qui est multifacette. Hein, il n'est pas que sur le scolaire, puisque c'est 0,30 ans.
Merci, monsieur le maire. Par une délibération du 28 septembre 2022, le Conseil communautaire a approuvé le projet global de territoire, PGT, de Mont-de-Marsan agglomération pour les familles et les 0-30 ans dans le domaine de la petite enfance, de l'enfance, de la jeunesse, la parentalité et la cohésion sociale. Pour mémoire, le PGT est une démarche stratégique partenariale qui a pour objectif d'élaborer le projet de territoire pour le maintien et le développement des services aux familles et la mise en place de toute action favorable aux habitants dans leur ensemble. Il prend la forme d'une convention projet global de territoire signée avec l'ensemble des partenaires que sont la CAF, la MSA, la préfecture, l'éducation nationale, le conseil départemental, Mont-de-Marsan-Anglo, les communes de Saint-Pierre et de Mont-de-Marsan, pour une durée de 5 ans. Cette convention a pour objet d'apporter des réponses aux besoins prioritaires recensés sur le territoire communautaire, de définir des champs d'intervention à privilégier au regard de l'écart offre-besoin, de pérenniser et d'optimiser l'offre des services existantes par une recherche et une mobilisation des cofinancements, de développer des actions nouvelles permettant de répondre à des besoins non satisfaits par les services existants, de mettre en place à l'échelle intercommunale un projet donc global de territoire qui fusionne les dispositifs suivants, le PEDT, projet éducatif territorial, le plan mercredi et les conventions territoriales globales. Cette convention formalise les engagements réciproques des parties signataires en vue d'améliorer la pertinence, la cohérence, la complémentarité des politiques publiques mises en œuvre sur le territoire de la communauté d'agglomération dans le cadre d'un partenariat renforcé. La ville de Mont-de-Marsan est partenaire de ce projet. Les élus et les services de la ville ont participé à son élaboration dans le cadre des groupes de travail et des comités techniques de pilotage. Il est donc ainsi proposé au conseil municipal d'autoriser M. le maire à signer la convention projet global de territoire.
Voilà, est-ce que cette convention appelle des commentaires? Il y avait déjà eu un débat lors de l'assemblée communautaire, il y en a pu y en avoir en conseil municipal. Y a-t-il des prises de parole sur cette convention qui est dans la continuité? Je vous propose donc, merci Jean-Jacques, je vous propose donc de l'approuver, d'approuver les termes de la convention projet global de territoire. Y a-t-il des voix contre ? Y a-t-il des abstentions ? Je vous remercie. C'est voté donc à la majorité. Et nous allons passer la parole à Christophe Fourcade pour nous parler des décisions modificatives. D'abord pour le budget de la ville, c'est la délibération numéro 13.
Merci, monsieur le maire. Donc, comme vous le savez, le budget prévisionnel a été voté, mais il nous est demandé d'y apporter des modifications en cours d'année, que ce soit aussi bien en termes de recettes ou de dépenses, en fonction des évolutions et pour coller au plus près de la réalité. Donc, pour cette troisième décision modificative, il vous est proposé une augmentation de la section fonctionnement à hauteur de 321 750 euros, avec en particulier des charges à caractère général de 54 000 euros, dont une rallonge de 20 000 euros pour le carburant, le reste étant des affectations de compte à compte que vous retrouvez dans les charges de gestion courante. L'autre poste sur lequel il y a des modifications, c'est les charges de personnel qui augmentent de 160 000 euros et qui correspondent à l'augmentation du point d'indice et à l'ajustement par rapport au budget qui avait été fait. Il est à noter que dans la section des recettes de fonctionnement, vous trouverez à hauteur de 90 000 euros l'atténuation de cette augmentation du point d'indice, puisque nous avons provisionné la compensation qui a été l'augmentation de 50% qui a été accordée par le gouvernement. Nous avons ensuite modifié au niveau des charges de gestion courante à hauteur de 326 000 qui se décompose essentiellement par la subvention complémentaire qui sera versée au CCAS à hauteur de 280 000 euros et qui, là aussi, provient de l'augmentation du point d'indice sur le CCAS. Et on retrouve aussi un ajustement des déficits des budgets annexes à hauteur de 80 000 euros. En face de ça, les recettes tiennent compte donc de la compensation du point d'indice et de l'inflation, puisque nous avons sollicité l'aide auquel nous avions droit et nous espérons toucher 150 000 euros au titre de l'acompte avant la fin de l'année. Nous avons aussi une dotation pour la station CNI, c'est une subvention pour le quatrième poste de travail à l'accueil pour les passeports. Voilà. Et enfin, nous avons tenu compte des produits exceptionnels à hauteur de 77 000 euros qui correspondent à des remboursements de sinistres qui n'avaient pas été budgétés, ainsi que ainsi que 51 000 euros de recettes supplémentaires de l'occupation du domaine public, ce qui équilibre ainsi la section de fonctionnement à hauteur de 321 750 euros. Au niveau de l'investissement, comme on en avait diminué le virement à la section d'investissement de 218 250 euros, ces éléments-là au travers, qui sont compensés par des augmentations de subventions que l'on a reçues, 98 000 euros pour l'île Lolon, 120 000 euros pour l'action Cœur de Ville, qui n'était pas budgétée. Et en termes de dépenses, on opère un transfert de 220 000 euros qui se décompose en 100 000 euros de travaux pour les réseaux de la nouvelle tribune Boniface et 120 000 euros pour une rallonge de maîtrise d'œuvre pour le musée. Voilà ce que je pouvais préciser sur cette décision modificative.
Merci Christophe Fourcade. Est-ce que vous avez des commentaires
des demandes de précision sur ce qui vous a été présenté. Monsieur Bachier, pardon.
Simplement pour vous dire qu'on restera dans le droit fil de nos votes précédents. Nous voterons contre l'LM3.
Bien, y a-t-il d'autres remarques ? Donc, s'il n'y a pas de remarques, qui vote contre ? On est au complet, il y a des procurations ? Pardon. Alors, donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 voix contre. Qui s'abstient ? Je vous remercie. Donc, c'est voté à la majorité. La délib suivante, c'est une DM, mais c'est pour le parc de stationnement, Christophe.
Donc là aussi, cette décision modificative, le but est de revaloriser les charges de personnel des agents rattachés à ce budget à hauteur de 20 000 euros. L'équilibre en fonctionnement proviendra de la refacturation qui sera faite de la mise à disposition de ces personnels au budget principal.
Y a-t-il des questions sur le parc stationnement ? Y a-t-il des voix contre ? Des abstentions. Une abstention, M. Piarine. Donc, c'est voté à la majorité. Délibération suivante. Christophe Fourcade, c'est la DM numéro 3 pour le budget de la régie des fêtes.
Donc, là aussi, nous vous proposons de rectifier le budget de la régie des fêtes en modifiant le montant des charges de personnel pour un montant de 92 000 euros. Compte tenu d'une baisse des charges à caractère général de 7 000 euros, il est proposé pour équilibrer la section fonctionnement une prise en charge par le budget principal à hauteur de 85 000 euros. Il est à noter que c'est cette augmentation des charges de personnel s'explique d'une part par l'augmentation du point d'indice et de la mise à disposition de la directrice qui a été sous-évaluée, et d'autre part une augmentation des cotisations URSSAF et une revalorisation des salaires annexes à cette commission.
Est-ce que vous avez des questions ou des remarques sur cette délibération ? Alors, M. Piarine et M. Dutin. Pardon, j'étais à mon truc.
Alors, on participe à des commissions où on obtient péniblement des réponses. Et là, on découvre que maintenant, c'est une augmentation du salaire prévu pour la directrice et le point d'indice. Il n'en a pas du tout été question en commission. En commission, on nous a parlé plutôt de augmentation du prix de la sécurité, augmentation du prix des sanisettes pour les fêtes. Excusez-moi, je vais lire un peu, une fois n'est pas coutume. En septembre, on nous a expliqué qu'au chapitre 12 des comptes de la régie, rémunération des personnels, il manquait 97 000 euros au budget prévisionnel pour la rémunération d'un personnel qui finalement n'est pas parti. Mais qu'il y avait aussi une erreur d'écriture entre les taureaux et les toreros, c'était pas très clair, et que ces 97 000 euros sont compensés grâce aux bénéfices des corridas. Cette fois-ci, on nous dit que ce n'est plus 97 000 euros, mais 92 000. Répartis non plus en 50 000 et 47 000 entre rémunération titulaire et non titulaire, mais ce coup-ci, 30 000 et 62 000, comme s'il ne s'agissait plus des mêmes problèmes de financement. Ouais, bon, mais en commission, on m'a répondu que c'était la même. Donc ça veut dire qu'on a encore.
Oui, c'est une nouvelle décision modificative.
C'est une nouvelle.
Il y a encore un ajustement.
Bon, d'accord. Ce coup-ci, donc, ça serait le prix de la sécurité qui a augmenté, le prix des sanisettes. On n'avait pas prévu qu'on n'aurait pas cette année de droit télé. On ne savait pas qu'il fallait payer une cotisation à l'UVTF. Que viennent faire ces considérations-là au chapitre 12 ?
Non, rien.
Mais c'est ce qu'on m'a répondu en commission.
Non.
Les corridas ont-elles généré des bénéfices ? Il paraît que oui. On ne peut pas obtenir les chiffres. Hein. C'est compliqué. Si elles en ont généré, à quoi servent-ils ? la transparence doit être absolument apportée, parce que la tauromachie est un sujet sensible, mais pas seulement. Tous les budgets devraient être transparents, mais surtout accessibles, c'est-à-dire compréhensibles pour le grand public, et on en est très très loin. Juste une remarque sur la délibération, le total chapitre 02, 509 plus 92, ben ça fait pas 506, ça fait pas 606, ça fait 601. Voilà. L'autre remarque, c'est qu'on nous demande 85 000 euros pour renflouer ce budget annexe, et dans la délibération numéro 13, on parle de 80 000 euros. Donc moi, je voterai au nom de Marsan Citoyen contre tout ce flou au sujet de la régie des fêtes.
Je vais essayer de répondre là. Ah oui, allez-y, pardon. Non, allez-y, allez-y.
Oui, moi j'aurais une remarque principale et puis éventuellement une ou deux remarques annexes. La remarque principale, c'est que je vais vous demander le retrait de cette délibération. Pourquoi ? Je m'explique. Dans le cadre, effectivement, de cette délibération, il y a un certain nombre de visas qui sont les visas qui sont prévus, effectivement, par les textes, et notamment que, au préalable, il s'agit d'obtenir l'avis, puisqu'il ne s'agit qu'un avis, du conseil d'exploitation de la régie municipale des fêtes et d'animation. Effectivement, nous avons une réunion. Non, si vous ne m'écoutez pas, je... D'accord. Voilà, vous avez le don de tout faire en même temps. Parfait, je vous félicite. Donc, nous avons effectivement été réunis au conseil d'exploitation de la régie municipale le 25 octobre 2022, sauf que le document qui nous a été remis à cette occasion n'est pas le document qui est aujourd'hui soumis au vote du conseil municipal. Et là aussi, je m'explique. Donc, j'ai les documents sous les yeux et je parle sous le contrôle de Pascal Horry. Le document qui nous a été remis dans le cadre, effectivement, du conseil d'exploitation prévoit, Monsieur Ourcade, notamment au niveau du chapitre 011, qu'il y a une diminution de 12 000 euros. Or, le document qui nous est remis aujourd'hui, ben oui, c'est une réduction de 7 000 euros. J'indique également que, parce que, oui, mais ça me pose problème, parce que factuellement, techniquement et juridiquement, vous devez obtenir l'avis du conseil d'exploitation de la régie. La régie a donc émis un avis, mais sur des documents et sur un document qui n'est pas celui que vous soumettez aujourd'hui au vote. Et en conséquence de quoi, ça me paraît imparable, même si ça n'est qu'un avis, cet avis doit être recueilli et recueilli de manière éclairée. Et vous vous rappelez que j'avais fait la remarque que, notamment au niveau du conseil d'exploitation de la régie des fêtes, ne siègent pas uniquement que des élus. Il y a aussi des personnalités que nous avions évoquées qui, peut-être, ont aussi le droit et ont le droit d'avoir l'intégralité des chiffres que nous sommes amenés à voter. Donc il me paraît qu'en l'état, nous ne pouvons pas valablement délibérer ce soir. Si jamais vous deviez décider que si, à ce moment-là, j'aurai en subsidiaire, c'est mon métier qui revient, deux observations sur ce qui nous est soumis. Mais d'abord, je voudrais avoir votre avis sur le fait que vous retirez ou pas cette délibération. Monsieur le maire, pardon, excusez-moi, j'indique également une autre précision, que sur le document qui nous a été remis au niveau effectivement du conseil d'exploitation de la régie des fêtes, je pense qu'il faudrait, en minimum tout de même, nous sommes sur des chiffres, c'est extrêmement, et c'est des chiffres qui engagent effectivement l'argent public. Je prends le document qui nous a été remis donc le 25 octobre, le total du chapitre 70, voilà les chiffres qu'on nous porte. 450 000 euros BP 2022, DM3 80 000 euros, total 520 000 euros. Alors, là aussi, enfin, pas très bon en maths, mais 450 plus 80, ça fait pas 500. Oui, non, mais d'accord. Mais je veux dire que, au moins, prenons la précaution, lorsqu'il s'agit des totaux finaux, qu'on ait des chiffres qui soient des chiffres qui soient corrects. Voilà.
J'aime bien les totofinaux. Alors, j'essaye dans l'ordre, et je vais m'appuyer aussi sur ma collègue Pascal, j'essaie dans l'ordre de reprendre un peu les choses sur le fond. On va regarder après sur la forme, en effet, si ça requiert un avis conforme, etc. Moi, ça ne me pose aucun souci. Il y a un conseil en décembre, on peut le passer en décembre. C'est pas un problème. Cela dit, j'aimerais qu'on parle du fond, et après, on regarde bien sur la forme. Mais je vais essayer de vous répondre sur... Alors, si vous avez des questions sur le fond, je prends, hein.
Épuisant. Donc, non mais, je sais pas pourquoi il y a une bonne ambiance ce soir. Hein, non mais sur le, oui mais non mais moi je veux bien qu'on aborde effectivement le fond, mais cette forme, vous savez, on est en train de demander la possibilité de voter une subvention d'équilibre. Grosso modo, c'est un peu de ça dont on parle aussi. Qui concerne effectivement la régie des fêtes. Tout à l'heure, on parlait d'un certain nombre de personnes qui sont susceptibles de nous vouloir d'empêcher que tout ce qui a trait effectivement à la tauromachie, je ne dis pas que la régie des fêtes ne s'occupe que de ça, mais s'occupe tout de même aussi de ça, et donc je ne voudrais pas que sur des arguments de ce style là, eh bien tout simplement il y ait des difficultés par rapport à une décision aussi grave qui est celle que nous devons effectivement voter. C'est la raison pour laquelle c'est pas simplement un problème de forme et de fond. La forme, je l'avais dit à l'occasion d'un premier conseil municipal, et vous m'aviez demandé de ne pas faire d'effet de manche, puisque je citais effectivement Victor Hugo. Je vous avais vu, je ne l'ai pas refait, je vous ai écouté. Mais il me paraît tout de même que la forme doit être respectée, et que si notre Assemblée ne respecte pas la forme, ça me pose difficulté. Le fond. Le retrait de la délibération permettrait, excusez-moi, M. Pierrine, mais de vous satisfaire, finalement, parce que les questions que vous avez posées, peut-être que nous pourrions les avoir à l'occasion de cette prochaine délibération qui interviendrait, et donc ça serait d'une pierre deux coups, mon petit argument de forme venant apporter de l'eau au moulin à votre argumentation de fond sur le fond. Ça c'est la deuxième remarque que je voulais faire, et donc tout cela faciliterait effectivement les choses et peut-être un débat plus éclairé. Ce que je voulais savoir, c'est que finalement la prise en charge du déficit du budget annexe aujourd'hui, elle est donc fixée à 520 000 euros. Enfin non, ça c'est le document qu'on nous avait mis, c'est 535. Donc oui, puisque c'était 520 000 et maintenant c'est 535. Je voudrais savoir si, parce que je n'ai pas ces chiffres-là et je souhaiterais que vous nous les donniez, je voudrais savoir si cette somme-là correspond à ce qui était généralement pratiqué avant la période Covid.
Alors, je vais faire deux observations. Effectivement, j'ai sous les yeux la délibération que j'ai portée au vote du Conseil d'exploitation de la Régie des Fêtes, qui porte bien la subvention d'équilibre à 520 000 euros et non à 535 000 euros. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est un fait. Donc je laisse Monsieur le maire voir ce qu'il veut faire par rapport au retrait demandé. Concernant les chiffres dont parle Monsieur Piarine, ils sont totalement communiqués dans le cadre notamment du Conseil d'exploitation de la Régie des Fêtes, et c'est de l'argent public, et donc il est sur le budget. Il n'y a aucune opacité dans le budget de la Régie des Fêtes. Ça, c'est clair. Il y a des erreurs qui font l'objet de décisions modificatives. À un moment donné, seuls ceux qui ne travaillent pas ne font pas d'erreur. Point. Et moi, j'assume totalement qu'il y a eu des erreurs de fait lorsque le budget primitif a été préparé. Maintenant, par rapport aux chiffres avant Covid, le montant de la subvention d'équilibre, je ne l'ai pas en tête. Je crois que ça a toujours été équivalent, à peu de choses près. C'est franchement, on est entre 450 et 550, je le fais de mémoire. Je ne sais pas si quelqu'un a des chiffres peut-être plus précis. Mais voilà. Et quant à la recette que génère la tauromachie, Monsieur Dutin, vous faites partie du conseil d'exploitation. On n'a jamais caché quoi que ce soit. Il y a un budget qui est voté et les chiffres ont été donnés.
Mais Madame Maury, pardon, excusez-moi, Monsieur le maire, parce que vous m'avez, sur une partie que j'ai avancée, que vous me regardiez, je vous en remercie, mais sur la deuxième partie, et notamment celle-là, regardez qui de droit. Bon, d'accord, mais sauf à ce que vous fassiez une polarisation sur ma personne, mais je n'ai jamais...
J'étais ébloui, oui, monsieur Dutin, j'étais ébloui.
Mais je vous en remercie, ça me fait très plaisir. Mais par contre, effectivement, je n'ai jamais dit que j'avais un doute sur les recettes, etc. C'est pas moi qui ai dit ça. C'est pour ça que quand vous me regardiez et que vous me citiez, il ne me semblait pas en avoir parlé. Par contre, effectivement, ce que je dis et ce que je répète, c'est que le débat, et notamment cette réponse dont vous ignorez effectivement la question que je posais, dont vous ignorez effectivement la réponse sur la subvention d'équilibre, ça me paraît effectivement extrêmement important qu'on ne soit pas à dire bon, c'était à peu près la même chose, c'est à la louche. Moi, je veux, et ça serait l'occasion effectivement si c'était renvoyé, moi, je souhaiterais effectivement avoir une position claire et c'est chiffré, voilà, qu'on puisse effectivement nous porter des informations, parce que ça n'est pas neutre, évidemment, si la subvention d'équilibre a augmenté ou pas avant la période Covid, parce que ça nous appellera à nous questionner sur un certain nombre de ressorts, et notamment de recettes ou de dépenses à équilibrer, pour éviter que la subvention d'équilibre ait bondi au niveau de quelques années. Voilà, c'est la raison pour laquelle je voulais avoir ce chiffre qui ne me paraît pas être un chiffre anecdotique, et c'est principalement le chiffre sur lequel on nous demande de voter. Je pose une question qui est une question extrêmement simple. On nous dit, voilà le chiffre de la subvention d'équilibre, on est incapable de me dire très précisément, à part oui peut-être, oui ça devait être ça à la louche, c'était à peu près. Je trouve ça regrettable et j'aurais aimé effectivement qu'on me donne les chiffres avant Covid, évidemment avant Covid, puisque oui. L'année Covid, où il y avait eu des spectacles, n'est pas évidemment le très intéressante au niveau de ce débat. Voilà,
j'essaye de reprendre la main et de prendre mes dernières. Vous voulez vous exprimer? Allez-y.
Je n'ai pas de doute, hein. J'essaie de comprendre, je suis en auto-formation sur ce qu'est un budget municipal. On me parle en commission, et c'est juste ce que j'essaie de comprendre, d'un budget prévisionnel qu'on n'arrive pas à respecter, ce qui peut être le cas, parce qu'on n'avait pas prévu certaines choses, comme les droits télé, la cotisation à l'UVTF, les sanisettes, le prix de la sécurité. Je ne vois aucune décision budgétaire en dehors du chapitre 12. Alors, je crois comprendre que le chapitre 12, c'est les salaires. Donc, je cherche à comprendre. Donc, je n'y mets pas de doute, je cherche à comprendre.
Alors, pour vous répondre, les droits télé, cette année, il n'y en a pas eu, puisqu'on n'a pas eu la télé à Mont-de-Marsan. Il y en avait l'année dernière. Il y avait 35 000 euros l'année dernière, pas cette année.
Oui, mais on m'a dit qu'ils avaient été budgétisés, c'est-à-dire qu'ils étaient au budget prévisionnel, et que oui. Finalement, comme on ne les a pas, ça fait une modification. Il n'y a pas de modification en dehors du chapitre 12.
Est-ce que, si vous permettez, moi, je propose qu'on ait... En effet, à nouveau, ce débat. Alors, je ne suis pas au conseil d'exploitation, mais qu'on ait ces échanges au conseil d'exploitation. Et sur la forme, il n'y a même pas de débat. On remet ça au mois de décembre. Alors, je ne sais pas quand est-ce qu'est le conseil municipal du mois de décembre. Moi, ça ne me pose pas de problème. Ce que je constate, c'est qu'on est. Et la forme a son importance. Hein. Je n'ai pas dit que la forme, je m'asseyais dessus. Mais on est sur une différence, a priori, de 520 à 535 sur le différentiel et de 7000 à 12000 sur les 011. C'est pas grand-chose, mais il faut le regarder pour que ce soit un avis conforme. Il n'y a aucun problème là-dessus. Si vous le permettez, moi, je voudrais vous donner quelques éléments. D'abord, faire tomber je sais que c'est pas votre... Je ne m'adresse pas à vous, monsieur Dutin. Faire tomber le fantasme de dire c'est opaque, c'est la tauromachie, ils font un peu ce qu'ils veulent, etc. Les choses, elles ont énormément changé. C'est-à-dire que tout est public, c'est contrôlé par la CRC, la Chambre régionale des comptes est venue nous éplucher ça comme jamais. On a eu les félicitations du jury d'ailleurs, parce que on ne peut plus traiter ça comme ça de manière obscure. Tout est public, tout est... Alors, là où je vous rejoins, et moi le premier, c'est que nous avons, nous, élus, nous ne sommes pas des spécialistes de la gestion, besoin d'un peu de pédagogie pour expliquer des tableaux imbuvables. Ça, je suis d'accord. Donc, on doit pouvoir progresser là-dessus, et on va progresser. Mais tout est public. Tout est public. La seule chose que je nous demande, c'est de ne pas interférer dans le pouvoir de négociation qu'ont nos CTM et nos prestataires. Le pouvoir de négociation individuel. Vous avez bien compris que c'est un petit monde hein, qui se parle entre eux, etc. D'ailleurs, demandez aux Dacois, aux Bayonne et aux Vicois s'ils clament sous tous les toits combien ils perdent le matador, il n'y en a pas un qui dit le truc. Ce que l'on peut dire, c'est globalement le montant des choses. Donc tout est public. Et après, on peut se le dire aussi. Voilà, c'est simplement ne pas interférer dans la négo de nos prestats. Parce que c'est un petit monde où, des fois, à géométrie variable, hein, vous avez un matador un jour, il coûte tard, il coupe deux oreilles, il coûte tard, et puis la fois d'après, voilà, hein, c'est des choses un peu... voilà, c'est pas une science exacte. Hein. Donc simplement vous dire qu'en effet, M. Perrin, il y a eu deux DM. Il y a eu une première DM, vous l'avez dit, c'est deux choses différentes. C'est des modifications. Peut-être qu'on a surestimé certaines recettes ou sous-estimé certaines dépenses. Tout à fait, c'est possible. Si ça continue, j'ai même commencé à dire qu'on s'est trompé. La première DM, 97 000 euros. Oui, on vous a donné explication. 97 000 euros, il y a 47 000 euros, c'est... Une personne qui devait partir, qui n'est pas partie, on l'a remplacée, ben elle se retrouve à deux. Ok, ça arrive. D'un autre côté, la personne qui n'est pas partie, on aurait dû la payer sur un autre budget ville. Hein. C'est toujours le même hein, qui paye, hein. C'est le budget ville. Et après, en effet, il y a un jeu d'écriture entre taureau et torero. C'est qu'on a, sur le poste torero, on n'avait pas assez, sur le poste taureau, on avait trop, donc on a fait cet échange-là. Et la deuxième décision modificative, qui est de 90 000 euros, qui amène à 85 000 euros, là, c'est quoi ? C'est d'un côté 30 000 euros sur les points d'indice, etc. Et c'est de l'autre côté 62 000 euros parce que d'un côté, ben, il y a peut-être eu des cotisations URSSAF un peu plus élevées. Il y a peut-être eu un ou deux subalternes qui ont été sous-estimés par les matériaux principaux. Ça peut être aussi, en effet, et ça c'est une... Je prends le point pour moi, c'est on n'a pas anticipé la totalité peut-être de la rémunération du cadre de direction qui était auparavant dans un autre service. Voilà, c'est ça, hein, c'est très... Alors,
Non, mais excusez-moi, mais si vous, puisque vous voulez faire de la pédagogie, c'est sans arrière-pensée. Hein, comment, après la DM2, on a 509 000 euros auxquels on rajoute 97 000 euros et on arrive à 606, et comment à la DM3, on repart de 509 000 euros auxquels on rajoute 92 000 euros et auxquels on arrive en plus à un résultat qui n'est pas bien calculé. Moi, je vous propose rien. Ou alors, il y a une grosse erreur.
Je vous propose que cette pédagogie que je dis là, vous l'ayez en conseil d'exploitation et je m'y engage. Vous n'y êtes pas, d'accord, pardon. En commission des finances, alors. Mais après, ce que je voudrais vous dire, c'est que là, on passe de 450 à 500, alors pas 20, 35, hein, c'est le sujet. D'accord. Donc c'est ces 85 000 euros qui n'étaient pas forcément, qui étaient soit sous-estimés, soit surestimés. Je vous donnais les réponses. Ce que je ne voudrais pas, sincèrement, c'est qu'il y ait de mauvaises interprétations qui viennent ternir la régie des fêtes à un moment donné, à un moment où nous sortons, et là on peut tous être d'accord avec ça, nous sortons de deux années de Covid et nous sortons d'une madeleine, et je le dis vis-à-vis des équipes et vis-à-vis de ma collègue qui s'y est collée, Pascal Horry, et des équipes renouvelées, où nous sortons d'une madeleine que la plupart des gens ont jugée exceptionnelle. Alors, toujours les goûts et les couleurs, feu d'artifice qui a été plébiscité, les corridas, alors nous on a joué plutôt deux ou trois corridas plutôt qu'une, mais des corridas qui allaient de mieux en mieux, chacun son aficionne bien évidemment, mais sur les trois dernières, j'ai plutôt eu quand même des éloges, où nous avons eu, un certain nombre, au niveau de la sécurité, des incivilités, un record, alors même si une bagarre, c'est toujours une bagarre de trop, hein. Enfin, des statistiques qui étaient quand même très élogieuses, alors que la cocotte minute était là, et ça faisait deux ans que les gens attendaient de faire la fête, ça s'est très très bien passé. Bon, on a un certain nombre, donc je voudrais pas quand même... Même si j'entends que la forme est importante et que là on est sur des montants et qu'il faut en effet donner de la pédagogie et de la rigueur que l'on a, je ne voudrais pas qu'on ternisse ça. De quoi parle-t-on ? On parle d'un ajustement d'une décision modificative qui amène de 450 000 à 525 35 000 euros. Voilà. Moi, j'invite d'ailleurs celles et ceux qui n'ont pas fait leur retour sur les Madeleines, mais il y en a qui l'ont fait. J'ai interrogé les services, les élus. La Noviada a fait le plein. Piqué, non piqué. La Corrida, les trois dernières, ont fait quasiment l'unanimité. Alors, même si en tourmachine, on ne fait jamais l'unanimité. Le concours landais, on commence à retrouver des niveaux de concours landais en termes de présence. Le feu d'artifice, je vous l'ai dit. La fête de jour qui prend, demandez aux cafetiers, demandez aux brasseurs, demandez aux associations, sans trahir de secret, c'est des croissances à deux chiffres sur leur chiffre d'affaires, sur leur activité. Le festiclass, parce que moitié arène, hein, presque. Festiclass, hein. D'accord. L'incantada banda, la musique vivante, la sécurité, bah, tout ça. Alors oui, il y a des choses. Je veux quand même qu'on se concentre là-dessus, même si les chiffres sont importants. Il y a des choses. Moi, je pense que les seniors, il faut leur donner plus de place, et c'est ce qui émane des retours que vous avez faits les uns et les autres. Je remercie les élus qui ont pris le temps de répondre. Peut-être plus de place pour les seniors, pour le défilé. Il y a certaines problématiques qu'il faut traiter avec les sanisettes de propreté, etc., notamment sur les vestiaires féminins. Je ne rentre pas dans les détails. Il faut qu'on arrive à progresser là-dessus. Voilà, il y a des choses, il y a le modèle aussi des verres recyclables, les cock-up qu'il faut retravailler. Tout ne va pas parfaitement. Mais je trouve un peu dommage qu'après une fête populaire où il y a un énorme succès, qu'on se polarise. Moi, je trouve que la régie, elle est plutôt bien gérée par quelqu'un qui vient d'arriver, avec une équipe nouvelle. En effet, on sortait de deux années de Covid. C'est pas évident de reprévoir qu'est-ce qui va se passer. Je rappelle qu'il y a bon nombre d'abonnés plutôt anciens qui étaient un peu frileux pour aller se remettre collés serrés dans les gradins. Donc on avait aussi cette prudence. Et au résultat, et tout ça vous pourrez le voir, mais si on veut globaliser, on a encaissé 1,3 million. Je parle des recettes. C'est 1 290 000 euros. On a encaissé 1,3 million. Et le plateau nous a coûté 875 000 euros. Je répète, on a encaissé 1,3 million, tout ça, vous pourrez avoir les chiffres. Et le plateau, je ne me faites pas rentrer dans les détails, je vais vous expliquer pourquoi je ne rentrerai pas dans les détails, parce qu'il y a des négos derrière. Et on a un plateau à 875. Ça fait une différence de 400 000 euros. Et 400 000 euros, ce n'est pas de l'argent pour autre chose que la fête populaire. D'abord, c'est aussi de l'argent pour la corrida, pour la transmission. Vous parliez tout à l'heure de ces causes-là. Quand vous organisez deux novidas, une avec cheval, une sans cheval, c'est 60-70 000 euros de déficit. Donc il faut le financer. Quand on maintient un anciero en faisant travailler les uns les autres, les barrières, etc., moi je suis attaché à cette tradition, mais on bagarre, hein, parce que si, voilà, il y a beaucoup qui me disent arrête ça, ça ne sert à rien, etc. Non, tout ça c'est financé aussi par l'argent. Quand on fait plus de musique vivante dans la rue, oui, ben oui. Donc on peut s'enorgueillir. Alors il ne faut pas que ce soit que la course aux bénéfices. Mais cet argent qui a été dégagé par ce spectacle vivant, il permet de financer des choses qui sont autour de la corrida et aussi autour de la fête populaire. Et ça permet de réduire l'argent du contribuable. Alors là où peut-être il y a confusion, c'est qu'en effet, la sécurité a augmenté, c'est qu'en effet, il y avait deux, trois choses auxquelles on s'attendait. D'ailleurs, on ne les remettra plus. Hein. La télévision, c'est au dernier moment qu'on est au courant. Quand Canal Plus Toros vient, c'est au dernier moment qu'on sait si on les a ou pas. Donc on les remettra plus dans le prévisionnel, comme ça on n'aura qu'une bonne surprise. Mais il y a des petites choses comme ça qui se sont additionnées, qui ont fait que. Mais globalement, moi je vous dis, on revient à... Alors j'ai entendu, on est tous un peu en compétition. Hein. Je suis désolé, nous on a pratiquement l'affluence des années 2015, 2017, 2012. Si on compte tous les spectacles, il y a eu en moyenne, la ville de Mont-de-Marsan dans les arènes, 30 000 personnes. Alors on a déjà fait plus, hein, avant Covid. Enfin, je trouve que c'est pas. Et tout ça, ça paye. Et cet excédent, il paye les anciros, les deux noviadas, le concours landais. Il a fallu. Alors, le concours landais, ils sont autonomes, mais on a mis à disposition du personnel, les affiches, les bandas, le gardiennage. Voilà. Donc, je vous dis, si vous voulez avoir quelque chose de précis. Et on peut après rentrer dans les détails, mais pas dans une assemblée comme celle-là. 1,3 million de recettes, les billets vendus, 875 000 euros, les taureaux, les toreros. Alors, il n'y a pas que ça, hein. Il y a un peu de prestataires, un peu d'assurance, un peu de ci, un peu de là, mais globalement, c'est ça. Hein? Donc, c'est pour avoir cette taureau. Et on peut rentrer dans les détails. Hein? Voilà ce que je souhaitais vous dire. Je souhaitais vous dire aussi que,
on a un prestataire qui aujourd'hui nous coûte 80 000 euros. Il coûtait jadis 106 000 euros. D'accord ? L'objet de ce prestataire, ils sont deux, c'est moitié-moitié. Le parti juridique et la partie, vous imaginez de qui je parle, la partie tauromachique. L'objet aussi, c'est d'aller nous obtenir et de négocier au mieux des équilibres, de respecter les choix de la CTEM, parce que ça reste nous et nous seuls, avec la commission taurine et dans laquelle on a ouvert au Peña, qui choisissons la programmation. Mais après, ces prestataires-là, ils sont là pour nous sécuriser d'un point de vue juridique et puis essayer de négocier au mieux les contrats individuels. Donc je pense qu'il faut... Je voudrais juste faire cet aparté-là en disant... Moi, il faut quand même garder en mémoire ça. On va revoir ça en décembre, il n'y a pas de problème. Parce qu'il faut que ce soit conforme ce que vous avez par rapport à ce qu'on présente sur la forme. Mais sur le fond, sincèrement, on sort d'une Madeleine qui est plutôt un grand cru et qui a été portée par des gens qui ne l'avaient pas fait, qui avaient 2 ans de Covid derrière moi, je trouve, s'en sont plutôt bien sortis dans tous les domaines. Alors, il y a quelques petites choses à régler, mais moi, je pense qu'on peut être plutôt fiers de ce qui s'est passé. Les fêtes, c'est pas que la Madeleine, hein. C'est 2 millions d'euros à peu près, je crois, le budget des fêtes. On y met le Noël, on y met le Carnaval, on y met les Madeleines. Enfin, voilà, c'est un ensemble. Mais en ce qui concerne les Madeleines, l'excédent de la corrida, bah, ça permet de payer des choses qui sont autour de la tradition taurine, mais pas que, la musique vivante. Moi, j'assume complètement. J'assume complètement que cet excédent-là permette de payer... voilà. Ça veut dire qu'on ne peut pas l'annuler, mais il faut la représenter avec un avis conforme. Oui. Oui. Alors, ce qu'on me dit, c'est qu'il faut valider la DM sur la partie salaire 0,12, mais par contre, on s'engage, bien évidemment.
On représentera une DM en décembre, mais au moins là, pour autoriser, pour rajouter des crédits sur 0,12, on a besoin là de...
D'accord. D'accord. OK. Donc, si vous en êtes d'accord... Non, non, sur le principe, mais parce qu'il nous faut les crédits pour le...
Sur les 0,12, il faut payer les gens.
Voilà. Il faut pouvoir nous autoriser à payer les gens. Donc, ça veut dire que, d'un point de vue académique... D'accord. OK. Donc, pour ne pas bloquer, alors, je m'explique. Pour ne pas bloquer les choses, notamment le virement de crédit sur le poste 012 et payer les gens, je vous propose de passer cette DM-là, là, et on note bien qu'un conseil d'exploitation se réunit avec le bon avis et qu'on refera une DM d'ajustement au mois de décembre. Est-ce que ça vous va ?
Oui, alors évidemment, hein, on n'est pas là pour bloquer, et notamment le paiement des salaires, et ça, il n'y a aucune difficulté. Par contre, effectivement, je pense qu'il est plus raisonnable de renvoyer pour le reste, avec peut-être un débat, puisque je suppose que ça reviendra devant le conseil d'exploitation de la régie des fêtes. Je poserai donc, puisqu'on c'est devant cette assemblée qu'il faut poser un maximum de questions, je poserai donc un certain nombre de questions précises et techniques.
Alors, si vous pouvez nous les communiquer avant que nous préparions les réponses, ça sera parfait. Comme ça, vous aurez tout ce que vous voulez.
Vous avez compris que je... Monsieur Arin.
Merci. Non, je serai très court sur ça. Effectivement, je viens de relire la DM2, la décision mitigative numéro 2. Les chiffres ne sont pas les mêmes que par rapport à la DM3, donc ça mériterait effectivement d'avoir un éclaircissement. Oh, je ne suis pas juge des compétences, mais oui, effectivement, à la DM2, on nous dit qu'on arrive à un total de dépenses de fonctionnement à 835 000 euros, et là, on repart de 879 000 euros avant la DM3. Donc il y a quelque chose qui... Bon, après, c'est les budgets de la régie, c'est compliqué. Moi, ce que je regrette... sur ça comme sur d'autres choses, c'est que il y a des choses qui ne sont pas exactes qui sont dites. Alors, je sais que ça agace tout le monde que je le dise, mais je ne peux pas m'en empêcher. J'en suis navré. Sur le prestataire, on a dit à une époque qu'on changeait de prestataire et qu'on changeait la convention, que maintenant on payait beaucoup moins cher et qu'il y avait une part variable. Ce n'est pas vrai. Le prestataire avait diminué au fil des années et à la fin, le dernier marché en 2017, il y avait une part variable qui a été introduite en 2017 et pas en 2020 et le coût était le même. Donc il ne faut pas dire des choses qui ne sont pas réelles. Sur le personnel, l'agent qui ne part pas, qui est remplacé, ce n'est pas vrai. Un agent de catégorie C remplacé par un agent de catégorie B+, si l'agent de catégorie C s'en va, elle sera remplacée aussi. Ce n'est pas pour le remplacer, ils ne font pas la même chose. Bon, je suis navré de le dire. Ensuite, sur le remplissage des arènes, une chose simple, vous avez décidé, monsieur le maire, et vous avez peut-être raison, de diminuer la programmation, donc de mettre moins d'argent dans les toreros, en mettant moins de vedettes parce qu'on n'était pas certain du tout le remplissage des arènes, c'est évident, après le Covid. Du coup, il y a eu moins de recettes. Voilà, mais ce n'est pas... C'est pas honteux, ça s'explique, et peut-être même qu'à l'arrivée, vous aurez fait plus de bénéfices que les autres années. Si vous annoncez 400 000 euros, c'est un bénéfice qui n'a jamais eu lieu. Voilà. On était plutôt à 250 000 euros de bénéfices, on avait plus de recettes, autour d'un million cinq, me semble-t-il. Les deux premiers jours, c'était pas plein. Voilà, tous ceux qui étaient dans les arènes l'ont vu, c'est pas la peine de dire autre chose. Par contre, la subvention d'équilibre au global, il faudrait avoir les chiffres, effectivement, mais ça n'a jamais été aussi élevé. On était autour de 430 000 euros, me semble-t-il. Donc, il faudra regarder sur les dernières années, mais ce n'est pas la même chose. Mais ce n'est pas grave, ça peut coûter plus cher. Il faut juste le dire en toute transparence et dire pourquoi. C'est tout.
On va passer au vote. Si, si, on passe au vote pour pouvoir débloquer, mais on s'engage à conseil d'exploitation. Sur cette délibération, donc dans ce qu'on vient de se noter, à savoir un passage en conseil d'exploitation avec un avis conforme et les bons chiffres, et une DM respectée en décembre, y a-t-il des voix contre ? Une voix contre, y a-t-il des abstentions ? Je vous remercie. En ce qui... Oui, j'ai compris. Enfin, on leur dira ça, non. Budget, parc de stationnement. Alors, attendez, stationnement, on l'a vu ?
Oui.
OK. Donc, on est à la 16 ? Allez-y. Donc, on note que Mme Piau donne son pouvoir à M. Bachet. La 16, virement d'une subvention d'équilibre du budget principal. Bon, ben là, Christophe, je vais t'aider. Hein. C'est ce qu'on vient de se dire, à savoir le passage de 450 000 euros à 85 000 euros de subvention d'équilibre, ce qui amène à 535 000 euros. Est-ce que ça, par contre, on peut le décaler ou est-ce qu'on le vote puisqu'il faut l'avis ? Ouais, celui-là, on peut le décaler, il n'y en a pas l'avis. Moi, ça ne me dérange pas, ça ne change rien. Bon. Je le retire, ça, parce que ça, ce n'est pas en cohérence. Hein ? Là, il n'y a pas d'histoire de règlement de 0,12. Donc, on note que la 16 est reportée à la prochaine fois, sous réserve d'un passage et d'un débat en conseil d'exploitation sur le sujet avec les bons chiffres. Attribution d'une subvention, Christophe Fourcade, complémentaire pour le CCAS.
Oui, donc comme on l'a vu précédemment dans la décision modificative de la ville, il y a lieu de verser une subvention complémentaire pour équilibrer le budget du CCAS. Il vous est donc proposé d'ajuster la subvention d'équilibre du budget CCAS à 1 600 000 euros pour l'exercice 2022.
Est-ce que vous avez des remarques, des questions par rapport à cet ajustement ? Oui. Alors.
Ça correspondait à la variation de l'augmentation du point d'indice.
On l'a voté ou pas ?
Non.
Donc, qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Ensuite, la présentation, les non-valeurs, les créances éteintes, Christophe.
Comme nous le faisons régulièrement et à la demande du trésorier principal, nous devons constater les créances considérées comme perdues et irrécouvrables. En l'occurrence, il s'agit de constater l'impossibilité pour le Trésor de recouvrir des créances devenues trop anciennes, qu'il s'agisse de particuliers ou d'entreprise. Le total qui vous est demandé d'inscrire en non-valeur s'élève à 39 118,93 euros, dont 21 267,01 pour les particuliers et 17 851,92 pour des entreprises. Et la suivante concerne les créances éteintes. Et là, il y a lieu de constater les créances qui sont devenues irrécouvrables au motif de surendettement ou procédure collective pour les entreprises. Et le montant des créances devenues éteintes s'élève à 23 833,68.
Donc, merci Christophe. Cadre sur la délibération 18, les non-valeurs, y a-t-il des voix contre ou y a-t-il des questions déjà? Y a-t-il des voix contre? Y a-t-il des abstentions? Je vous remercie, l'unanimité. La 19, y a-t-il des voix contre? Des abstentions? Merci, l'unanimité. Délibération suivante, j'excuse Cathy Piquet pour vous présenter la délibération de la campagne de recensement, recrutement et rémunération des agents recenseurs. Donc, dans les communes de plus de 10 000 habitants, la collecte se déroule par des échantillons de 8% de la population sur son territoire. En 5 ans, 40% de la population sont donc ainsi requêtés. Pour la campagne de recensement 2023, qui aura lieu du 19 janvier 2023 au 25 février 2023, il est proposé de recruter 7 agents recenseurs pour cette mission portant statut de la fonction publique territoriale, recrutement pour exercer des fonctions correspondant à un besoin saisonnier. Leur mode de rémunération sur les bases suivantes, 4 euros par logement recensé et 210 euros d'indemnité forfaitaire de déplacement. Avez-vous des questions? Y a-t-il des voix contre? Y a-t-il des abstentions? Je vous remercie. Marc-Christine Bourdieu pour un règlement d'un concours.
Merci, monsieur le maire. Dans le cadre des animations de Noël 2022, la ville de Mont-de-Marsan, par l'intermédiaire de la régie des fêtes et animations, organise un jeu concours sous forme de tirage au sort intitulé Grand jeu de l'Avent. Ce concours se déroulera du 1er au 24 décembre 2022. Il est organisé en partenariat avec les commerçants montois qui offriront des lots. Plus de 50 commerces ont souhaité s'associer à cette animation et nous les en remercions. Les bulletins de participation seront disponibles chez les commerçants du centre-ville et partenaires et ils devront être déposés dans les deux urnes mises à disposition, une en mairie et l'autre à l'office de tourisme. Les tirages au sort se dérouleront à la mairie en présence d'un huissier les samedis 10, 17 et 24 décembre à 12h. Les modalités précises de participation ont été définies dans le cadre d'un règlement du concours Grand Jeu de l'Avent qui est joint en annexe et qui nous est demandé d'approuver.
Y a-t-il des questions? Merci Marie-Christine Bourdieu. Y a-t-il des... Allez-y, Monsieur Pierre-Inès.
Oui, deux petites questions. Est-ce qu'il n'aurait pas été possible de respecter le principe de laïcité sur l'intitulé du jeu? Sachant que, par exemple, dans le magnifique document qu'on a eu sur la jeunesse, là, on répète souvent que c'est ce qu'on essaie d'inculquer à nos jeunes. Ça, c'est la première question. Et la deuxième, c'est sur les partenaires, dans quelle mesure on peut avoir pour partenaires des marchands de tabac ou des marchands d'alcool?
Alors, sur le premier point, c'est dommage que Céline Piau soit partie, elle l'aurait posé. Vous l'avez eu le débat ou pas? Doucement. Sur le premier point, oui, c'est un choix et il est assumé. Pardon. C'est un choix assumé. Le deuxième point, on aurait pu choisir différemment, mais on assume celui-là. Voilà. Et après, sur le reste, oui, peut-être. Alors, allez, on ne va pas vous dire que la cave de Saint-Jean-d'Août, c'est des ballotins de chocolat, par exemple. F Boutique, c'est une paire de chaussettes. Rosenat, bon, j'aime pas, c'est des meilleurs. Il n'y a pas de paquet de cigarettes et il n'y a pas de bouquet d'alcool dans les lots. Dans les lots. Ah, Vapothèque, je ne sais pas s'il y est, oui, écoutez. Oui, peut-être, oui. De la tisane pour les parents. Au-delà de cette remarque, y a-t-il d'autres... Alors, il faut qu'on approuve le concours, c'est ça? Donc on approuve le règlement, qui est contre, qui s'abstient, je vous remercie. Mise à disposition de la partie géothermie, donc toujours pareil. La ville de Mont-de-Marsan disposait jusqu'au 31 décembre 2018 d'une régie municipale dotée de la seule autonomie financière en charge des services de l'eau, assainissement, chauffage urbain. Les compétences eau, assainissement des eaux usées ont été transférées à l'agglo en 2019. Seul le service chauffage urbain géothermie est demeuré en compétence communale. Donc Mont-de-Marsan agglomération dispose désormais de l'ensemble des moyens techniques et humains de l'ancienne régie municipale, mais dans un souci de bonne organisation des services et conformément aux dispositions du code des collectivités, on a acté le principe que les services communautaires seraient mis à disposition de la ville dans un intérêt commun afin de permettre la gestion de la géothermie. Donc il vous est demandé de me donner la possibilité de ratifier cette convention de mise à disposition d'un service sur l'autre. Est-ce qu'il y a des questions ? S'il y a... On ne va pas refaire le débat. Nous avons été très pédagogues l'autre jour en vous expliquant qu'on irait vers ça, mais qu'on ne pouvait pas comme ça tirer des câbles, des tuyaux, n'importe quoi. On est d'accord. Sur cette mise à disposition, qui est contre, qui s'abstient ? Je vous remercie. Dernière chose. Je voudrais juste remercier mon voisin, je fais attention parce qu'il est costaud, mon voisin Farid Eba, ainsi que l'équipe de Franck et les autres, et dans l'équipe de Franck Michaud, Thierry Chiarello, et d'autres qui se sont investis pour qu'on puisse, au milieu des 250 villes candidates, avoir le bonheur d'accueillir le Tour de France, on en reparlera. Le Tour de France le 7 juillet pour une étape qui viendra souligner à la fois, on n'a pas eu ça depuis 71, et souligner à la fois les 50 ans de la victoire de Luis Ocaña, ça on l'a dit et redit, et puis peut-être matérialiser le fait qu'on aura un beau vélodrome à cette période-là. Donc je voulais te remercier Farid et surtout que tu transmettes les remerciements et M. Michaud également à vos équipes, mais le travail ne fait que commencer. Ce travail, il est, même s'il est très bien cornaqué et piloté par l'organisation du Tour de France, qui a plutôt l'habitude de faire ça, il sera un travail qui va être intéressant, épanouissant, à la fois pour les agents et les services, parce que ça va nous changer un peu du quotidien, et tous les services seront impactés, et puis aussi les élus, et là, pour le coup, on pourra peut-être être preneur de toutes les bonnes idées pour pouvoir faire de cette journée un événement, et un événement qui dure, et qui est transverse dans les écoles, chez les seniors, auprès des associations, des clubs sportifs, des déplacements doux, etc., etc. Donc voilà, je voulais juste matérialiser ça et vous souhaiter une bonne fin de soirée. Gilles Chauvin.
Oui, excusez-moi, je vais peut-être pas replomber l'ambiance, mais on a commencé par, tout à l'heure, monsieur le maire a commencé par annoncer le décès de Benoît Daugam, une grande figure montoise et du rugby. Il y a une autre personnalité de la ville, certainement moins connue, mais que nous on a bien connue, c'est le docteur Mahé, qui travaillait à la Clinique des Landes, qui était un chirurgien à la Clinique des Landes, avec qui on a beaucoup travaillé. Moi, j'étais dans le secteur hospitalier. Lui était dans une clinique privée. Je peux vous dire qu'on travaillait très bien ensemble. Il est mort jeune, 68 ans. Et je veux dire, bon, une pensée pour lui, pour ce qu'il a fait pour la ville aussi, parce qu'il s'était très impliqué dans sa ville et son épouse aussi. Et je veux dire que pour moi, c'est une perte, parce que c'était un homme bien, et c'était un très bon chirurgien, avec qui on a, malgré qu'on soit dans des univers différents, hospitaliers et privés, on a beaucoup travaillé ensemble, et je pense de façon intelligente. Voilà. Je voulais juste un petit mot pour M. Maillet.